Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette chaîne, sur ce live Twitch. Bienvenue à vous, bienvenue le chat, vous êtes avec nous, très heureux de vous accueillir. Pour cette émission, on va parler des femmes dans la tech avec des gens absolument passionnants. Et je ne serai pas tout seul parce que j'ai le plaisir d'être avec Mimi.
Hello Jean, bonjour le chat, bonjour Internet, ça va très bien. Ravi d'être là en chaussettes.
En chaussettes, on est bien, t'as vu ?
Ouais.
Le plateau est trop cool, c'est plus joli que chez moi.
Clairement.
Je crois que je vais m'installer là, ça c'est sûr. Mimi, tu es créatrice de contenu sur Internet, streameuse, podcasteuse.
Entre autres,
ça fait un bout de temps que je te vois popper dans mes TL.
Bah écoute, moi aussi.
Bah, ça fait plaisir.
On se tourne autour dans les mêmes bulles et les mêmes événements, mais on n'a jamais pris le temps de faire un live ensemble. Donc,
et bah c'est la première fois et c'est trop cool. Donc avec Mimi, on va animer cette émission. On va passer 2 heures ensemble. On va avoir des invités et on va parler des femmes dans la tech, c'est ça ?
Tout à fait. On va parler des femmes dans la tech parce que, comme vous le savez probablement, et il me semble que tu l'as évoqué très récemment de toute façon sur ta chaîne, on a des petites problématiques d'égalité en France en général. Et dans la tech, c'est pareil, puisque les femmes n'occupent que 24% de l'ensemble des emplois du secteur du numérique dans le monde. Et 50% d'entre elles le quittent avant l'âge de 35 ans, ce qui est quand même désolant. Ouais. Du coup, l'idée de ce live, c'est de parler, dans un premier temps, des explications. Pourquoi il y a ces inégalités ? Pourquoi il y a moins de femmes qui vont dans la tech ou qui y restent ? Et puis de parler aussi des solutions, de celles qui essayent de faire changer les choses.
Et dans une deuxième partie, donc voilà, on parlera des solutions, de ce qui existe, de ce qui est mis en place, de comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, comment est-ce que vous pouvez y participer aussi. Ce live est sponsorisé par Orange. Paf, incroyable.
Wow.
Orange qui est là. Pourquoi ? Alors, Orange, moi je connais
L'opérateur
de téléphonie mobile et Internet. Mais pourquoi Orange, les femmes dans la tech ?
Parce que Orange s'engage aussi pour la place des femmes dans la tech avec différents programmes, dont Hello Women, qui est là depuis 2020 et qui a mis en place plus de 2 millions d'euros dans plus d'une dizaine de pays, avec beaucoup d'initiatives, pour valoriser la place des femmes dans la tech. Et notamment, un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment aider les plus jeunes à se projeter dans un métier dans le numérique, parce que ça commence au moment de l'orientation et que le chiffre est assez triste, moins de 7% des adolescentes en 2021 qui envisageaient de s'orienter vers le numérique.
Ouais.
Et ça fait partie des choses que Orange essaye de changer avec Hello Women.
Et que donc Orange essaye de changer sur Internet, parce qu'Orange, c'est pas que de la téléphonie et de l'Internet, c'est aussi beaucoup de travail d'ingénieurs, d'intelligence artificielle, de développeurs, etc. Donc il y a tout un travail qui est mené par Orange, et en sein même de leur entreprise, ils nous l'ont dit, eux aussi sont pas satisfaits du nombre de femmes qui travaillent dans les secteurs tech de leur propre boîte, donc c'est aussi une réflexion en interne. Et parmi le programme Hello Women, il y a la question donc d'explorer les raisons, les solutions. On va parler d'éthique, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler d'algorithmes, on va parler de création sur Internet, on va parler
de plein de choses. On va même parler de ChatGPT si tout se passe bien.
Ouais, grave, carrément. Bonjour à tous, en tout cas, soyez les bienvenus. Et est-ce que ça te va si on envoie la première partie ?
Let's go. Ton chat a l'air impatient puisqu'on a 10 secondes de retard au lancement et les gens étaient là. C'est parti. Donc si vous êtes impatient et impatiente, nous aussi.
D'accord, j'arrête de taper dans mes mains dans le micro. D'accord, excusez-moi. Oh là là. Je vous propose qu'on parte directement avec du coup nos deux premiers invités qui vont nous rejoindre en plateau. Suivez-nous. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Émilie et Anis, salut.
Bonjour et bonjour à tous.
Bonjour, merci d'être avec nous du coup pour cette première discussion. Avec nous, Anis, toi tu es connue sous le nom de Defend Intelligence.
Oui.
Notamment sur Twitter, puisque tu parles beaucoup notamment de ces sujets-là d'IA et d'algorithmes.
Exactement.
Tu es toi-même ingénieur IA.
Exactement, c'est ça Jean. Je suis ingénieur en intelligence artificielle, donc ça fait quoi ? Ça fait 6-7 ans maintenant que je travaille dans le domaine.
Ouais.
Et j'ai lancé du coup la chaîne YouTube, les live Twitch, les live Twitter pour vulgariser un peu tout ça au grand public depuis 2 ans et demi, 3 ans.
Ok, trop bien. Et toi, Émilie, tu es ingénieure chez Orange et tu es responsable du programme IA éthique.
Oui.
Depuis combien de temps ?
Alors moi, je suis chez Orange depuis 2003, donc ça fait un bon bout de temps, mais j'ai beaucoup évolué dans l'entreprise, donc effectivement, ingénieur réseau au début. Et puis maintenant, donc, j'ai évolué progressivement dans le monde de l'innovation jusqu'à être responsable du programme de recherche sur l'IA responsable.
Parce que donc, Orange fait de la recherche.
Ah oui, oh oui, Orange a beaucoup plusieurs milliers de personnes dans le domaine de la recherche, dans plein de domaines différents, évidemment dans notre cœur de métier des réseaux, hein, prévoir la 5G, la 6G, les réseaux du futur, tout ce qui est connectivité, et puis aussi dans les domaines comme l'intelligence artificielle, même la société digitale, prévoir des services du futur dans le numérique.
Comment t'en es venu, toi, à te spécialiser dans l'intelligence artificielle ?
Alors, en fait, ça a été progressif. Hein. Donc, moi, j'étais plutôt spécialisée au début dans le réseau. Après, j'ai évolué vers le métier de chef de projet. plutôt dans le domaine de l'innovation. Au début, je travaillais plutôt sur la protection des données personnelles. Il y a quelques années, c'est quand même vraiment le sujet qui posait problème hein, dans les services numériques.
Ouais.
Et puis j'ai vu arriver donc, l'intelligence artificielle qui a permis de traiter plein de données, pour faire plein de nouveaux services, et du coup les problèmes associés à ça. Et donc j'ai progressivement migré sur le sujet de l'éthique et de l'IA responsable.
Alors, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de définir le plus simplement possible de quoi on parle quand on utilise le mot intelligence artificielle, et ensuite le mot éthique ?
D'accord.
Ça te va ?
Oui. Alors pour moi, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de débats sur la définition. Donc,
bah ouais.
Il n'y a pas de définition.
J'en propose une, mais
ouais, voilà. Vas-y, donne-nous la tienne.
Pour moi, c'est un ensemble de technologies qui visent à reproduire les capacités du cerveau humain. Donc par exemple, on va chercher à comprendre ce qui nous entoure donc par la vision, la reconnaissance de formes, de personnes, par le son. Aussi, on va essayer d'analyser les données, de produire un raisonnement pour arriver à anticiper des actions, décider en fait, est-ce qu'on va marcher, est-ce qu'on s'avance sur le passage piéton alors qu'il y a une voiture qui arrive, on essaye d'évaluer sa vitesse, est-ce qu'on y va ou pas par exemple. Donc voilà, donc finalement l'intelligence artificielle c'est plein de choses différentes, plein d'usages différents, en gros pour nous aider à faire mieux, plus vite, voilà.
Est-ce que c'est une définition qui te convient ? Est-ce qu'on a une contre-proposition ?
Alors, j'oserais pas avoir de contre-proposition, mais enfin, elle a très bien déjà l'introduction. Aujourd'hui, il n'y a pas de vraie définition d'intelligence artificielle. Ouh. Tu demandes à n'importe quelle personne, elle va te donner une définition différente. Moi, j'aime bien parler de processus suffisamment complexes pour pouvoir en faire des modèles d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va pas donner à une machine un but, mais on va pas lui dire les tâches pour y arriver. Okay. C'est à elle d'apprendre comment y arriver. Voilà.
Et si dans le chat vous avez une autre définition qui permet de cerner de quoi on parle, n'hésitez pas à la donner aussi.
Avec grand plaisir. En vrai, du coup, hein, je lis.
Si vous avez lu quelque part quelqu'un qui avait une définition qui vous plaisait et tout, mettez-la nous dans le chat. Il y a un autre mot qui, à mon avis, va arriver assez rapidement dans la discussion. Je vous propose qu'on l'affronte directement. C'est le mot algorithme. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est quoi la différence ? Les points communs ? De quoi on parle ?
Alors, pour moi, un algorithme, hein, c'est une suite d'étapes qui permet de résoudre un problème. Donc,
okay.
Donc des étapes ou de calcul. Par exemple, une recette de cuisine, c'est un algorithme dans le domaine de la chimie. Hein.
Exemple,
on veut produire un gâteau.
C'est ça, ouais. Vu comme ça, c'est... Ouais, ouais. Ok,
c'est
d'accord.
Clair.
Et donc après, l'intelligence artificielle, donc, c'est un ensemble de techniques et du coup, il y a des algorithmes dedans. Après, il y a des algorithmes qui sont plutôt déterministes, c'est-à-dire qu'on connaît les étapes, on sait exactement à partir de l'entrée qu'est-ce que ça va produire en sortie. Et après, il y a des technologies qui sont un peu plus... qui sont différentes, qui sont basées sur l'apprentissage, hein, comme le disait Anis. Où là, on va utiliser un historique de données, d'expériences précédentes pour produire de la connaissance. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, c'est plus large que les algorithmes.
Bon, dans le chat, on parle de code, on parle de...
Skynet et de Terminator,
évidemment,
ce qui n'est peut-être
pas drôle.
Sur la plus claire.
Ok, d'accord, on parle de protocole aussi, d'accord, ok. Bon, ok, je vois, j'ai l'impression qu'on a à peu près tous cerné.
L'algorithme le plus simple hein, qu'on utilise tous au collège, qu'on apprend, c'est la moyenne. Quand tu fais une moyenne entre deux nombres, c'est un algorithme, comme elle a très bien dit, c'est un ensemble, c'est une succession de tâches. Moi, j'aime bien quand on parle d'intelligence artificielle, je préfère parler de modèle, parce qu'un modèle, c'est un cas d'usage plus des données, plus un algorithme. Et la plupart des algorithmes aujourd'hui qu'on utilise en intelligence artificielle, je vais donner des grands mots, mais s'il y en a qui veulent aller sur Wikipédia, par exemple le Random Forest, ou des algorithmes type bayésien, entre guillemets, qui sont des probas, des stats. Ça date du 19e siècle,
ouais,
etc.
Ouais.
Et aujourd'hui, on a des data et on a des machines pour pouvoir les utiliser. Quoi.
Ok, d'accord, très bien. Jusque-là, ça m'a l'air tout ça très technique, technologique, très intéressant. Qu'est-ce que l'éthique vient foutre là-dedans ?
Alors l'éthique, moi je dirais, c'est quand on développe des systèmes, on a des choix à prendre. Et l'éthique, en fait, c'est la manière d'orienter en fait pour que ça se passe bien finalement et pour qu'on maîtrise le système et qu'on soit en confiance par rapport à lui.
Donc il y a une question de bien et de mal, c'est ça ?
Alors ça peut être basé sur des valeurs, effectivement, le bien et le mal, ou aussi sur l'impact que ça peut avoir sur les personnes. En fait, c'est ça. Enfin, l'idée, c'est de prendre en compte aussi d'anticiper les risques, hein, les impacts négatifs des systèmes. Les cas où ça peut se tromper, par exemple, ou les pannes qu'on pourrait avoir, pour construire un système avec des choix assumés de manière éthique et responsable.
Il y avait quelqu'un dans le chat qui donne l'exemple classique du trolley problème, où du coup, une voiture intelligente avec un humain à son bord et qui doit choisir entre foncer dans deux humains ou foncer dans un mur et du coup tuer le passager qui est à son bord. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui peuvent peut-être permettre de cerner...
Okay, en reprenant ton exemple,
yes.
C'est le MIT, je crois. qui a fait l'étude et qui ont fait un sondage en fait dans les pays. Enfin, c'est en fonction des cultures et des pays, c'est pas les mêmes réponses.
Les gens ne pensent pas qu'en
France on écrase les gens. Non mais en vrai
moi, je pense que dire rien.
Alors que les Allemands, ils préfèrent préserver le passager.
Non mais c'est ça qui est ultra intéressant, c'est-à-dire que quand on parle d'éthique, on peut pas être. En fait, il faut être très humble. Quand tu parles d'éthique.
Il n'y a pas de vérité absolue, tu veux.
Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas d'objectivité, etc. Et en fait, ce qui est ultra intéressant, c'est que la plupart des chercheurs, quand ils réalisent des modèles d'intelligence artificielle, eh ben, en fait, aujourd'hui, de plus en plus, il y a une certaine humilité en disant, notre truc n'est pas parfait, tu vois. Ils vont réaliser des trucs de petits au début et de plus en plus gros, parce que c'est fou, l'imagination des gens, pour détourner des solutions technologiques.
Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Il y a Marie dans le chat qui demande est-ce que le TGV doit partir à l'heure ou est-ce que le chat doit survivre.
Oui.
C'est un débat éthique qui a explosé sur Twitter il y a quelques jours. Bah, et on vient en parler, c'est un sujet intéressant. Ok, non, mais soyons concrets. Est-ce que vous avez des exemples d'IA, d'algorithmes et d'éthique, des sujets. On a parlé donc voiture intelligente, voilà, voiture qui se conduit toute seule, autonome. Ok, j'ai l'idée. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre?
Alors moi, je peux donner un autre exemple, aussi parce que la société, en fait, elle est biaisée, des fois elle est injuste, et on a des algorithmes, en fait, qui peuvent reproduire en fait des inégalités ou des voilà un statut de la société. Donc on peut avoir un choix éthique de dire, bah nous, on veut faire mieux, par exemple. On veut des IA qui soient pas discriminantes ou inégalitaires. On veut des IA plus équitables. Mais en fait, il y a plein de manières de définir, par exemple, l'équité. Et donc on a des choix à faire. Et par exemple, donner sa chance à tout le monde ou donner la même chance aux femmes et aux hommes, c'est deux choix différents qui ne sont pas compatibles.
C'est vrai.
Donc c'est un autre exemple de dilemme un peu éthique qu'on peut avoir à se poser quand on décide de développer des algorithmes.
Anis.
Et en fait, tu as dit un mot, c'est essentiel, je pense, de juste arrêter deux secondes. Ça va amplifier en fait, les concepts immoraux qu'on peut avoir dans une société. Je te donne un exemple.
Ouais.
Aux États-Unis, il y avait un algorithme qui devait décider si les gens... combien de temps une personne doit rester à l'hôpital, tu vois, pour faire tourner les places dans les lits, etc., à l'hôpital. Et en fait, la personne disait que les gens blancs devaient rester plus longtemps à l'hôpital que les gens noirs, in fine. Parce qu'en fait, dans les modèles d'apprentissage, les noirs aux États-Unis dans cet état avaient un salaire moins bon que les blancs, et donc ils pouvaient moins de temps rester à l'hôpital que les blancs. Et donc, en fait, l'algorithme a appris, OK, donc si t'es noir, t'as pas besoin de rester longtemps à l'hôpital. Et donc, potentiellement, tu te fais moins bien soigner. Et donc, en fait, ça va venir amplifier ça, et c'est ultra important à comprendre, quoi.
Les gens dans le chat, vous avez des exemples de sujets éthiques liés aux IA, aux algorithmes. On peut penser à Parcoursup. C'est une forme algorithmique de sélection, d'entrée dans les filières à l'université, basée sur des algorithmes décidés par les facs, mais quand même. Et donc, il y a des choix qui doivent être faits par les universités sur est-ce qu'on veut forcer la parité, est-ce qu'on veut forcer la mixité sociale, est-ce qu'on veut forcer l'homogénéité des notations, est-ce qu'on veut forcer le... Ouais, ça c'est un exemple.
Oui, on a parlé du faible nombre de femmes qui s'orientent vers les métiers du numérique et du faible nombre, en tout cas, on n'est pas à la parité dans les femmes qui sont étudiantes dans le numérique ni dans leur vécu, puisqu'il y en a plus que d'hommes qui vivent du harcèlement sexiste ou sexuel, par exemple. Du coup, voilà, quand on crée un algorithme qui est censé rendre un service, en tout cas, à la société, comment est-ce qu'on décide à quel point on va l'entraîner à aller contre les biais qui sont déjà présents, en lui disant... Peu importe ce que tu as comme données, nous, on veut arriver à tel résultat de... Il y a autant d'hommes que de femmes sur Parcoursup qui vont être orientés vers les métiers techniques. Ou est-ce qu'on décide, il faut qu'ils se basent sur des datas qui sont ce qu'elles sont et du coup, quitte à peut-être renforcer des biais déjà présents.
Je pense que la première chose à faire, c'est de bien mesurer les biais qu'on a déjà dans la société, quoi, pour savoir de quoi on part. Et après, effectivement, décider en collectif. Moi j'aime bien pousser ça, qu'il y ait plusieurs personnes qui ont des profils différents, des âges.
Oui, toi, tu travailles en équipe.
Voilà, exactement, pour décider ensemble de critères en fait, qu'on se donne pour paramétrer l'algorithme.
On parle de biais depuis tout à l'heure, c'est le sujet au cœur du problème de l'éthique dans l'intelligence artificielle. Les biais, c'est la manière qu'on va avoir de subjectiver des données d'entrée dans les travaux qu'on va mener, c'est ça ?
Alors, c'est une immense... en vrai, là, on touche vraiment à...
Bah, on a aucun sujet, ouais.
Un immense champ de recherche. Je peux juste peut-être donner des exemples que j'ai eu dans mon taf.
Ouais, ouais. Vas-y.
À un moment donné, je dirais pas l'entreprise, etc., mais j'ai dû faire un système de reco pour plusieurs millions de Français. D'accord, notamment
un système de
recommandation, pardon.
Okay.
Un système de recommandation de produits. Et en fait, dans ce système de recommandation de produits, il y a quelqu'un en Bretagne et on lui recommandait que de la malbouffe.
Ah ouais.
On lui recommandait que de la malbouffe parce que cette personne n'achetait que de la malbouffe. Donc on lui recommanda à un moment donné des Pringles, du Coca, des burgers à réchauffer, etc., etc. Et à un moment donné, je me suis mis devant mon ordi comme ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi?
Est-ce que je suis le méchant de l'histoire? Est-ce que je suis du mauvais côté?
Mais non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, je me demandais, est-ce que c'est moi le méchant? Mais pourtant, mon algorithme me dit que j'ai des super bons résultats. Tu vois? Mais du coup, si je lui donne de la salade, cette personne, peut-être, elle va pas cliquer, et du coup, mon algorithme, il va être moins bon vis-à-vis des gens qui me payent.
Ça dépend de quoi ton objectif. C'est pas un organisme de santé qui a dit on va recommander des produits nutritionnellement intéressants aux gens.
Exactement.
On va leur recommander des produits qui leur plairont.
Et du coup, c'est pas que aux scientifiques de faire ses choix, tu vois. Il faut que nous, on soit autour d'un objectif global, entre guillemets. Et je mets juste une parenthèse. Ce qui est important à comprendre, c'est que si on fait des choix dans un sens moral qui nous est positif à cette époque actuelle en 2023, demain, peut-être que ça sera pas un choix moral qui sera positif, mais peut-être demain, ça sera un choix moral qui sera négatif. Donc, quand on oriente le curseur dans un sens, on peut aussi l'orienter dans l'autre. Et je te jure, je me suis retrouvé comme ça face à mon écran.
Non, c'est intéressant.
Et qu'est-ce que je fais, quoi?
Et même, en fonction des régions du monde, des cultures, on va pas avoir les mêmes valeurs morales. Par exemple, proposer à quelqu'un qui est sous-nutri et tout ça, peut-être que c'est une bonne idée de lui proposer de la malbouffe, parce qu'au contraire, ça va lui donner plein de graisse dont il a besoin pour se développer. Donc, en fait, le choix n'est pas non plus catégorique, stable dans le temps. Enfin, faut le réévaluer régulièrement et l'adapter à chaque fois au contexte.
Oui, et puis les données sont forcément tronquées, puisque peut-être que cette personne, sur Internet, elle achète que de la malbouffe, mais en vrai, elle va au primeur et au marché, et ça, bah, c'est pas sur Internet.
Exactement. Donc,
toi, ton algorithme ne peut pas le savoir.
Et comment tu fais?
Du coup, tu peux pas aller à l'encontre de « non, je vais décider pour cette personne ce qu'elle doit acheter », quoi. Je pense qu'un autre exemple dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, c'est les algorithmes sur les applis de rencontres, qui non seulement peuvent encourager du coup des biais dans la société qui sont plutôt... l'homme propose, la femme dispose, donc la femme va être en position d'attente et va recevoir beaucoup de sollicitations dans une dynamique hétéro, bien sûr, et les hommes vont être plutôt amenés à... C'est eux qui doivent faire le premier pas et tout. On a vu des applis qui essayent frontalement de contrer ça. Il y a Bumble, par exemple, c'est que les femmes qui peuvent envoyer le premier message, c'est pas les hommes. Mais d'un autre côté, c'est des applis qui finissent par isoler complètement deux camps de la société, puisqu'un homme sur une appli de rencontre aura pas du tout la même expérience qu'une femme, mais ne le saura pas forcément. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, c'est parce qu'il y a eu des livres, notamment L'amour sous algorithme, qui ont mis en évidence un homme sur une appli va avoir l'inverse d'une expérience d'une femme, et du coup les frustrations ne vont pas être les mêmes. Mais tant qu'on ne communique pas dessus, on ne peut pas le savoir. Comment on fait pour sensibiliser peut-être à quel point les algorithmes sont présents et à quel point c'est important de les prendre en compte quand on analyse la société?
Alors déjà, on peut sensibiliser les concepteurs de ces algorithmes, justement, à tout l'impact que ça peut avoir. On peut prendre aussi en compte, pendant qu'on est en train de faire la conception, justement, des utilisateurs représentatifs de la cible de notre algorithme, parce que souvent, les concepteurs, c'est pas forcément ceux qui vont utiliser ou acheter. Donc c'est important qu'ils aient en tête les vrais destinataires de l'algorithme. Et puis après, moi, je dirais que même quand l'algorithme il est sorti, il faut continuer à superviser comment il est utilisé, parce que justement, les utilisateurs peuvent faire un peu n'importe quoi. Ou, s'il y a des problèmes qui apparaissent, il faut continuer à s'adapter en permanence.
Bonjour à vous qui nous rejoignez. On est en live donc dans cette émission spéciale où on parle des femmes dans la tech. On est avec Émilie qui est ingénieure, chef du programme de recherche IA et éthique. Chez Orange, et on est avec Anis, Defend Intelligence, créateur de contenu qui aborde ces sujets-là. Je suis avec Mimi, et vous êtes avec nous dans le chat, vous participez à la discussion, merci à vous d'ailleurs. Il y avait quelqu'un qui intervenait en disant il y a aussi le risque inverse de tout faire reposer sur le consommateur en le rendant responsable de tout, et donc se cacher en disant « Ah, c'est pas moi, vous savez, c'est les consommateurs qui décident ». Et du coup, c'est assez intéressant, on est au cœur de la question de l'éthique, on sait tous que les consommateurs sont orientés, les consommateurs le savent aussi parfois ou pas toujours, et donc il y a des décisions qui doivent être prises à un moment, et on peut pas... En fait, c'est une question que je vais poser, est-ce qu'on peut être neutre en matière d'intelligence artificielle et d'algorithmes?
Vas-y.
Non, justement, je pense qu'on s'attend à avoir des algorithmes neutres, parce que c'est une machine, voilà, elle n'a pas de sentiment, d'opinion, donc normalement, ça devrait être neutre. Mais en fait, en pratique, comme c'est à utiliser avec des données qui ne sont pas neutres, puisque c'est celles de la société, elles ne sont pas exactement représentatives, il n'y a pas exactement autant de femmes que d'hommes, ou autant de critères qu'on veut. Donc, en pratique, l'algorithme, il va reproduire plutôt la non-neutralité de la société et des données, quoi. Donc, moi, je dirais que non, ce n'est pas si neutre que ça.
Ouais. Et de toute façon, c'est quasiment impossible d'être neutre. Je vais te donner un autre exemple qui est ultra marrant. Tu connais DALL-E ? Vous avez entendu parler de DALL-E, le modèle qui génère des images comme Midjourney, etc. Mais de OpenAI, la même entreprise qui a fait ChatGPT. Et ben à un moment donné, eux, ils s'étaient dit, on veut pas créer du contenu qui est violent. C'est-à-dire pas de gens qui saignent, pas de contenu pornographique, etc. Donc il y a plusieurs solutions pour faire ça. Mais un des trucs les plus marrants, entre guillemets, pour moi, ça a été, ils ont bloqué le mot sang. Tu pouvais pas dire quelqu'un qui saigne, etc. Et du coup, il y a des gens qui ont mis, un cheval, qui se baignent dans une mare de jus de fraise.
Ok, ils ont détourné le concept.
Non, mais, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que même si t'essayes d'être neutre, les gens, ils sont tellement tordus.
Mais ouais.
Que genre, c'est quasiment impossible. Genre, ça demande. En fait, c'est la loi, une loi de Pareto, quoi. C'est une loi du 80-20. T'essayes la plupart du temps de choper 80% du contenu explicite en bloquant 20%, mais tu vas tout. Ça sera jamais parfait, quoi, tu vois.
Ouais, ouais, effectivement, et il y en a qui font le lien avec ChatGPT. Évidemment, c'est même devenu un jeu d'essayer de le faire.
Ouais, exactement.
Franchir ses propres lignes.
Oui, oui.
Mais oui, c'est.
C'est marrant à quel point.
C'est le premier truc que j'ai essayé de faire. Le premier truc que j'ai essayé de faire avec des potes.
Je vais lui faire dire des gros mots, c'est parti.
Ah ouais, on se posait des questions sur les choix qui étaient faits éthiquement. Vous vous souvenez de cette fameuse intelligence artificielle conversationnelle sur Twitter qui était devenue raciste en moins de 24 heures, exemple célèbre. Et on a senti que ChatGPT voulait pas tomber dans cet extrême-là. Donc, ils avaient visiblement mis beaucoup de freins. Et avec des copains, on s'est posé la question de savoir est-ce que ChatGPT peut t'aider à devenir un harceleur sexuel, comment séduire une nana qui veut pas, comment, on lui posait des questions comme ça. Sur la, de prime expérience, on a été assez bluffés par la réponse était il voulait pas rentrer dans le sujet. On sentait que ok, finalement j'en ai parlé avec le chat et ils m'ont tous dit en fait il y a mille manières de contourner
manipuler
le truc. Donc voilà, c'était pas parfait, mais je vois effectivement ce que tu veux dire.
Tu pourrais noter que c'était marrant aussi là, à quel point, direct, quand on a un modèle d'intelligence artificielle entre les mains, on veut le piéger.
On a envie de le tester.
Ouais, on a envie de le piéger, on a envie de le tester.
Est-ce que c'est un truc très humain de, on veut prouver qu'on est encore supérieur à la machine et que on finira toujours par casser les codes.
On peut donner l'exemple.
C'est une question de philo, ça. C'est...
On parlait de...
Je voulais donner un autre exemple. On peut citer le chatbot de Microsoft Tay qui avait été mis en ligne sur Twitter et en fait qui devait répondre aux personnes et justement les utilisateurs ils ont testé. En fait il y a eu beaucoup de violence et de racisme et le chat il a juste reproduit en fait ce qu'on lui donnait en entrée et du coup il est devenu raciste,
ah oui,
à dire des bêtises et donc du coup il a été retiré très rapidement quoi.
Ouais, parce que pour lui les concepts c'était notamment des trucs nazis qu'on leur avait donné. Ça veut rien dire entre guillemets pour lui des concepts nazis, tu vois.
Non, je comprends. Il y a quelqu'un dans le chat qui posait une question intéressante. Est-ce qu'il y a des modèles d'IA dans lesquels l'utilisateur peut influencer l'intelligence artificielle ?
Bah, l'utilisateur, c'est lui qui nourrit en données. Donc, évidemment, il influence. Donc là, c'est un exemple. Hein. Le chatbot, il était nourri par les internautes qui lui donnaient n'importe quoi pour le tester. Après, il y a aussi l'usage, en fait. Parce que des fois, les systèmes apprennent aussi en fonction de l'usage des utilisateurs. Et donc, du coup, ils vont se déformer. Typiquement, les recommandations, en fait, c'est en fonction des films que tu vois, par exemple, et qu'on te recommande des nouveaux. Donc oui, l'utilisateur a vraiment une importance.
Il y a un truc que je vois beaucoup, notamment sur Reddit, c'est donc je suis abonnée à des subreddits, des sous-forums, et parfois Reddit me demande de confirmer est-ce que ce subreddit parle bien de tel sujet. Par exemple, est-ce que le subreddit Air France parle bien d'actualité ? Je peux dire oui ou non, et ça les aide à améliorer leurs recommandations et le classement des subreddits.
Ah, pour faire la chasse aux subreddits qui, sous couvert de sujets neutres, en fait...
Oui, ils disent ici on parle d'actualité...
En fait, c'est de la pédophilie ou des trucs comme ça, oui, d'accord, okay.
Okay. Et puis aussi, je pense, pour recommander le plus précisément et de façon la plus pertinente aux gens, voilà, si tu veux entendre parler d'actualité, va suivre ce subreddit qui parle bien de ça, comme les gens nous l'ont confirmé. Est-ce que c'est un des outils qui peut être mis en place pour améliorer les IA, de donner de plus en plus au grand public le pouvoir de confirmer ou d'infirmer est-ce que l'IA est pertinente par rapport à ce que j'attends d'elle ?
Oui, c'est la boucle de feedback, on appelle ça, pour justement avoir le retour des utilisateurs sur est-ce que ça correspond à leur usage, est-ce qu'ils ont confiance ou détecter des problèmes, justement.
Ouais. Et juste... c'est aussi un des risques, entre guillemets, qu'on appelle le data poisoning. C'est en fait, les boucles de feedback sont très sujettes au fait
ça
que les gens veulent,
ça peut être abusé.
Vont vouloir détourner. Par exemple, Google fait face à ça tous les jours, le modèle de spam de Google. Moi, j'ai échangé avec la personne de chez Google qui est responsable de ça. Ils ont quelqu'un qui est là pour faire de la sécurité du machine learning. Et tous les jours, tu as des dizaines de mails qui sont flagués comme non spam, alors que c'est des spams.
D'accord. Ah, par les utilisateurs eux-mêmes.
Par des gens qui veulent envoyer des spams.
Ah, d'accord, ok.
Oui,
okay, je vois.
Du coup, essayent de bypass le système. Exactement. En disant non, c'est pas des spams, et s'ils sont assez à le dire.
Mais sur les réseaux sociaux, t'as une boucle de feedback. Hein. Ce truc ne m'intéresse pas, tu peux le cacher, etc.
Oui.
Et c'est un bon truc. Quoi.
Bon, en tout cas, si on vous pose la question, ici, on est bien sur une émission très intéressante.
Bien sûr.
Et des Twitch à nous recommander. Mais d'accord. On en parlait un petit peu tout à l'heure aussi. Tu disais qu'il y a des différences culturelles dans l'éthique. Il n'y a pas d'éthique absolue. Ça pourrait être un sujet de philo passionnant, mais en l'occurrence, le fait est qu'il y a différentes cultures et différentes manières de voir les choses. On peut donner un exemple sur les statistiques ethniques, par exemple, qui, dans des modèles européens, français notamment, sont interdites, là où dans des systèmes anglo-saxons, plus multiculturels, dans des modes de fonctionnement différents, sont parfaitement légaux et même utilisés par des ingénieurs. Et donc, une même équipe dans deux pays différents, n'aura même pas le droit légalement de travailler de la même manière.
Oui, des fois, pour la gestion des biais, on le disait tout à l'heure, donc, on a besoin de voir si notre système est biaisé en fonction de certains critères. Donc en Europe, on va plutôt regarder le genre ou l'âge, par exemple, alors qu'aux États-Unis, ils ont la race pour regarder si les systèmes sont racistes ou pas. Et en France, c'est plus difficile puisque c'est interdit si on veut évaluer ce type de critères.
Et est-ce qu'il y a une mobilisation en cours pour faire changer ça, peut-être, en tout cas de façon très encadrée, pour que les ingénieurs, etc., puissent s'en servir, ou est-ce que le risque, entre guillemets, serait trop grand et du coup, on ne va pas entrer sur cette pente qui peut être vue comme glissante, en effet, si on commence à classifier les gens, où est-ce que ça s'arrête ?
Alors, je pense que, justement, c'est un peu de l'hypocrisie d'interdire, alors qu'on veut, en même temps, ne pas être discriminant. Donc, il y a quand même des exceptions juridiques pour demander, quand on a une bonne raison, justement, justifier l'utilisation de ces données. Ça existe. Il peut y avoir aussi avec la future réglementation sur l'IA, on aura peut-être des bacs à sable, en fait, pour tester les IA et vérifier si c'est discriminant ou pas. Donc, voilà, je dirais que la réglementation évolue aussi pour nous aider à résoudre ce problème qu'on a aujourd'hui.
Il y a Force the Grid qui nous fait remarquer qu'on parle pas encore beaucoup de femmes, mais oui, mais on est en train d'y venir justement petit à petit, vous avez compris, puisque c'est un peu le sujet qu'on voulait aborder avec toi, Émilie, la question de ces biais misogynes. Est-ce que l'on constate à l'exercice que les intelligences artificielles et les algorithmes qui nous entourent ont des biais qui ont tendance à
appuyer sur des disparités qui sont, ouais, comme on l'a dit, déjà là dans la société, quoi.
Oui, en fait, l'origine des biais, elle est multiple, hein. Donc on a dit déjà dans la société, dans les données, et aussi dans le comportement des concepteurs. Donc c'est ce qu'on appelle un peu les biais cognitifs, enfin, ouais, les biais des humains, en fait, qui vont mettre un peu de l'heure dans ce qu'ils font. Donc effectivement, l'homme est biaisé. En fait, c'est des raccourcis dans le cerveau pour nous permettre de décider plus vite. En fait, on n'a pas le temps de tout analyser, donc on va décider vite. Et donc, si on a l'habitude de faire comme ça, on va plutôt faire, par exemple, par rapport à ce qu'on connaît. Donc, si on est homme européen, on va décider dans notre culture à nous. Donc, c'était l'explication de pourquoi on avait les biais.
Et
oui,
mais
je ne me rappelle plus de la question, je suis désolée.
Alors, en parlant de raccourcis, on a parfois tendance à faire le raccourci de « il y a des biais sexistes dans, oui, les algos, alors, parce qu'elles sont codées par des hommes développeurs, et voilà, les hommes développeurs peuvent en plus avoir la réputation d'être plus au contact des femmes, on va dire, et d'avoir une image peu égalitaire des femmes. Désolée, c'est pas moi, c'est
joliment dit.
Je le dis gentiment.
Oui. Et c'est vrai, oui.
D'où aussi l'intérêt de faire venir des femmes dans la tech,
exactement,
dans les métiers du développement et de l'ingénierie, mais… Peut-être pour sortir de cette idée un peu manichéenne de c'est des hommes misogynes derrière leur clavier qui ricanent en encourageant des biais sexistes. Je pense pas qu'on est dans ce niveau d'intentionnalité.
Non, mais ce que je voulais dire avec les... En fait, justement, c'est qu'une des solutions, c'est d'avoir des équipes diversifiées. Donc pour lutter un peu contre les biais cognitifs. C'est pas que homme-femme, hein, d'ailleurs, c'est d'avoir des cultures différentes, d'âges différents. Enfin voilà, pour avoir, comme je le disais, un collectif qui a une meilleure vision de la situation pour prendre les bons choix.
Est-ce que vous avez des exemples de biais, comme on l'a dit, du coup on a évoqué plusieurs questions d'éthique dans les IA, pour parler spécifiquement des problèmes de disparité hommes-femmes, est-ce que vous avez des exemples d'IA qui ont pu poser souci à ce niveau-là ?
Moi je peux te donner l'exemple de, encore une fois, chez OpenAI, de ChatGPT. Ils ont fait tout un... C'est triste, hein, mais en fait, au début, ils ont voulu faire un truc très égalitaire, 50-50% hommes, 50% femmes dans les données d'apprentissage, notamment sur DALI, pardon. Et en fait, quand ils ont commencé à filtrer des données pornographiques, il y avait des données de femmes qui n'étaient pas pornographiques qui ont été filtrées.
Oui, cette fameuse idée qu'une poitrine de femme est forcément sexuelle, alors que donc du coup un tableau de la Renaissance avec une femme seins nus serait de la pornographie, là où le statut, ouais, grec d'un homme torse nu ne le sera pas.
Exactement. Et du coup, vu que ces données sont entraînées d'Internet, on va dire que depuis que Internet existe, peut-être la... J'essaie de trouver comment le dire aussi joliment que toi. Mais...
Peut-être qu'il y a plus de femmes nues sur Internet,
voilà,
que d'hommes nus.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, par défaut, ce type de base d'apprentissage demande un immense travail qui ne peut jamais être parfait.
Ouais.
Tu vois. Et du coup, ça, c'est un immense exemple de biais, tu vois, entre guillemets, dans la tech.
Il faut appuyer sur le caractère inconscient des biais des développeurs. Ça réagit dans le chat, notamment des devs hommes qui disent « Non, mais on n'est pas miso, etc. » Vous inquiétez pas, effectivement,
pas
sans doute, c'est pas forcément l'idée. Ça peut être le cas pour certains, mais c'est pas forcément l'idée. C'est-à-dire que quand bien même on n'est pas misogyne, le fait qu'on est un homme, le fait qu'on vit dans une société qui est ce qu'elle est, nous force à avoir des biais. Et moi, le premier, hein, dans mes interviews politiques, j'ai plus souvent interviewé des hommes que des femmes. Et je m'en rends bien compte parce que le paysage politique est plus masculin que féminin, encore malheureusement voilà, aujourd'hui. Donc le biais, il est inconscient, ça dépend des data qu'on vous donne. Et encore une fois, le fait que cet environnement... Enfin, je dis ça, je l'affirme comme ça, mais est-ce qu'on a mesuré ça, le fait que, les développeurs soient essentiellement masculins, renforce les biais ?
Alors là, je ne sais pas s'il y a des statistiques précises.
Je ne sais pas si des stats ont été faites. Non, ce qu'on peut dire, c'est, comme tu l'as dit en introduction, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans les équipes aujourd'hui de dev.
Ouais.
Donc forcément, de manière naturelle, c'est bizarre à dire, comment je pourrais dire ça, de manière naturelle et triviale, on va forcément retrouver davantage de biais réduits vis-à-vis des comportements hommes que des comportements femmes. C'est mathématique, quoi, tu vois. C'est inconscient, c'est reptilien, quoi.
Ouais, ouais.
Donc c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui, mais après, j'ai pas de chiffres.
Non, après, moi, je peux donner d'autres exemples de biais, enfin, qu'on rencontre. Par exemple, tous les systèmes de vocaux, là, les assistants vocaux, au début, ça marche, et même encore un peu maintenant, je pense, ça marche beaucoup mieux pour les voix graves que pour les voix aiguës, par exemple. Parce que ça a été entraîné par. Parce que je pense que les concepteurs, il y avait quand même plus d'hommes, et ils entraînaient sur les voix qu'ils avaient à côté d'eux, qui étaient des voix d'hommes, quoi, et qui sont plus graves. Pareil sur la reconnaissance faciale, hein, au début, c'était plutôt sur des voix d'hommes, des têtes d'hommes, des images d'hommes, et du coup, ça marchait beaucoup mieux sur voilà, à reconnaître des visages blancs hommes plutôt que des visages féminins de couleur.
Et est-ce qu'il y a moyen pour les boîtes qui développent ce genre d'IA d'avoir du feedback automatisé? Je pense par exemple à un GPS, je me dis, est-ce que les gens préféraient être guidés, si on parle de stéréotypes, par une voix d'homme parce que les hommes c'est meilleur en orientation, l'idée c'est que les femmes savent pas lire une carte, ou par une voix de femme parce que c'est une voix plus agréable à l'oreille. Donc je me dis, disons un constructeur de GPS qui décide de mettre les deux, est-ce qu'il a du feedback sur, est-ce que les gens ont choisi à égalité, est-ce qu'il peut décider que ça va être random, que ça va être aléatoire au début, parce que si on décide que les deux voix sont disponibles mais que la voix par défaut c'est celle d'un homme, bah, y a plein de gens qui vont pas faire la démarche d'aller la changer ou même ne pas savoir qui peuvent la changer finalement. Est-ce que ça existe ce genre de feedback automatique pour voir, ok, on a proposé les deux, après les gens font avec leur biais, quoi.
Alors moi ce que je dis toujours c'est de proposer du choix à l'utilisateur et aussi superviser est-ce qu'il utilise ce choix. Parce que si finalement on propose deux voix et que finalement il laisse le paramètre par défaut sans jamais toucher, ça n'a pas d'intérêt. On peut aussi, par exemple, de temps en temps, lui reproposer une autre voix pour changer. Il y a plein de méthodes en fait qui existent pour justement essayer aussi de changer un peu le comportement de l'utilisateur, l'orienter, lui proposer du choix. Après, je pense que voilà, aujourd'hui, on n'a pas tant d'opportunités que ça. Il ne faut pas non plus trop de choix parce qu'après, sinon, on est perdu, on ne sait pas comment paramétrer notre truc. Donc voilà, c'est un équilibre compliqué à trouver. Moi, je n'ai pas de solution miracle.
Alors, il n'y a pas de solution miracle. Néanmoins, on a quand même identifié un des sujets qui est connu, c'est le manque de femmes dans les métiers de la tech qui pourraient faire partie des solutions pour aller vers des IA et des algorithmes plus inclusifs. Toi, ton expérience à toi, Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours et comment tu t'es retrouvée aujourd'hui à travailler sur l'IA et l'éthique ?
Oui, comme je le disais, hein, moi j'aimais bien les maths, donc j'ai été un peu naturellement, sans trop réfléchir, sans trop savoir ce que je voulais vraiment faire, j'étais un peu orientée vers le métier d'ingénieur.
Ouais.
C'est comme ça que j'ai commencé.
Et c'est déjà intéressant que tu aies été orientée vers là en tant que jeune fille, là où c'est pas le cas pour la totalité des jeunes filles.
J'ai eu la chance d'avoir d'avoir l'opportunité, on peut dire, d'y aller. Et puis après, ça a été un peu naturel dans l'entreprise. Après, on évolue aussi. Donc voilà, j'aimais bien les maths et la philosophie, en fait, en cours. Et du coup, je pense que finalement, je retrouve un peu ça maintenant, 20 ans après.
Exactement. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'orientation des jeunes filles, pour rendre les métiers de la tech plus attractifs, permettre aux jeunes femmes... Vaste sujet, vous me direz, on n'aura probablement pas la solution à nous tout seuls, mais c'est quoi les pistes ?
Alors moi, je pense qu'il faut agir assez tôt, en fait, puisque pour leur donner envie, en fait, d'aller dans les métiers techniques, dans les filières scientifiques, parce que avant que le choix de carrière, enfin, même d'études soit fait, en fait. Donc dès l'école primaire, par exemple, il faut éveiller les filles. Je peux en donner un exemple sur, par exemple, les ateliers sur la robotique. Dès la primaire, essayer de pousser des filles à y aller, d'avoir des animatrices filles aussi qui puissent leur donner, enfin, faire un peu modèle. Donc voilà, donc primaire, collège, enfin, il y a plein d'opérations pour faire venir des femmes dans ces contextes et associées à la technologie. Pour me donner des exemples. Donc voilà, après, moi, donc voilà, pour montrer que c'est possible, que c'est accessible aux filles. L'idée, ce qu'on dit en général, c'est d'avoir aussi des rôles modèles, en fait, justement, pour pouvoir se reposer sur des exemples de femmes qui ont réussi ou qui inspirent et qui donnent envie.
Est-ce que toi, tu as des rôles modèles qui t'ont inspiré dans ta carrière ?
Oui, alors, par exemple, je peux donner les exemples dans le domaine de l'intelligence artificielle et des algorithmes, Aurélie Jean. Hein. Elle est à la fois chercheuse en intelligence artificielle, très brillante, entrepreneuse, elle réussit dans les technologies. Et en même temps, elle explique aussi beaucoup les enjeux des algorithmes, elle vulgarise et donc elle retransmet en fait beaucoup au monde. Dans le domaine des sciences, j'aime bien aussi Syllabus, une youtubeuse hein, qui fait beaucoup de vidéos sur les sciences, en fait, avec une démarche scientifique qui est assez intéressante, qui sont assez, assez drôles aussi. Donc, on passe un bon moment.
Et qui est aussi sur Twitch. Je vous mets sa chaîne dans le chat.
Ouais. Pardon, on ne peut pas poster.
Les
modos, si vous pouvez.
C'est Adsyllabus.
Adsyllabus. La première personne, il y a quelqu'un qui demandait si tu as parlé de Aurélie Jean. Son nom de famille, c'est pardon. Jean. Aurélie Jean, donc, qui est effectivement une spécialiste. D'ailleurs, assez médiatique. Elle fait des interventions, des interviews sur YouTube. Vous trouverez beaucoup d'éléments là-dessus. Mais oui, rôle modèle. La question des rôles modèles est un sujet intéressant. Anis, toi, dans ton parcours à toi, est-ce que tu as croisé le chemin de femmes ? Est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspiré ? Est-ce que pas suffisamment ? Je ne sais pas.
Alors moi, j'ai fait parcours classique, école d'ingénieur.
Ouais.
En école d'ingénieur, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je pense que c'est essentiel, comme tu l'as dit. Je pense qu'il faut juste dire, réussir à avoir des campagnes de com où les gens comprennent que c'est fait pour tout le monde, entre guillemets, mais c'est ultra compliqué parce que tu as toujours le gros cliché du geek dans sa cave avec une capuche boutonneux, tu vois, et ça donne pas envie entre guillemets à plein de personnes. Et il faut aussi, il y a toujours une culture aussi en école d'ingénieur, il y a une culture parfois dans les équipes dev qui est une culture très masculine, tu vois. Il faut pas se mentir, donc il faut aussi que nous-mêmes on prend conscience de tout ça. C'est ultra important, je pense. Et en fait, c'est en travaillant sur ces deux fronts de manière mutuelle que on va pouvoir faire quelque chose. Et je pense qu'il faudrait faire une grande campagne entre guillemets pour démocratiser la tech, quoi. Sinon, en vrai, je sais pas comment dire ça de manière polie, mais on fonce dans le mur, quoi, si on n'a pas plus de monde. Exactement, et c'est ultra important. Et pour répondre à tes questions, Aurélie Jean, c'est une très très bonne copine à moi, je l'adore, je pense que elle fait un excellent travail. Et je pense qu'effectivement il faut mettre en lumière, quoi, les gens qui font la tech, tu vois, et les gens qui font la tech, quand je dis les gens qui font la tech, on a des femmes aujourd'hui dans les équipes dev. Moi, j'ai toujours eu la chance d'être à parité dans mes équipes dev. Okay. J'ai toujours eu cette chance. C'est incroyable. J'ai toujours eu cette chance. Tout le monde a sa place, quoi. C'est ultra important de le dire. Et au début, peut-être qu'on a toujours cette culture. T'as qu'à regarder les séries sur Netflix, etc., qui parlent de geek, qui parlent de tech, etc. C'est toujours la même chose. Un mec dans une cave, etc. Je pense qu'il faut casser un peu.
Là-dessus, il y a une étude de 2021 qui s'appelle Gender Scan, qui a du coup interrogé les adolescents et les adolescentes de France sur leur perception des métiers du numérique. Il y a trois peurs qui bloquent le fait de s'orienter vers le numérique et qui sont plus présentes chez les filles que chez les garçons. Il y a « c'est trop technique pour moi »,« je ne me sens pas capable de faire ces métiers » et « je dois avoir un niveau en maths très élevé ». Est-ce que peut-être sur ces trois peurs, vous pouvez rassurer notamment les filles qui envisagent peut-être de s'orienter dans la tech mais qui sont freinées par ces idées reçues, quoi ?
Alors, en fait, la tech, ça fait peur. Moi, je pense qu'on utilise tous de la technologie, on a tous un mobile et tout. Donc, en fait, c'est déjà au quotidien, en fait. Donc, j'aimerais bien casser cette peur. Au contraire, c'est accessible, en fait. Et la tech, en fait, c'est un grand mot. C'est plein de métiers différents. Donc, on peut aussi trouver chaussures à son pied en fonction de ce qu'on aime. Si on veut plutôt faire de l'innovation, si on veut construire des systèmes en production. Il y a plein de métiers différents. Donc, c'est pas un grand l'attaque, un unique domaine de développeurs.
Il y a Freddy dans le chat qui faisait remarquer que des femmes viennent à la tech en reconversion professionnelle. Et ça, c'est intéressant de dire que c'est pas parce que vous avez pas fait d'école d'ingé au début de votre vingtaine que c'est foutu, vous travaillerez jamais dans la tech. C'est aussi intéressant de dire que si vous êtes une femme, ça vous intéresse. Il y a plein de scénarios dans lesquels vous allez pouvoir aller vers la tech. Donc oui, c'est effectivement une bonne intervention, c'est assez intéressant. On parlait de rôle modèle tout à l'heure, on a cité des personnalités célèbres, une vidéaste, syllabus, aux religions, une personnalité médiatique. Il y a aussi des rôles modèles proches de soi,
oui,
dont on pense assez peu. Tu donnais l'exemple, par exemple, de l'animatrice du club de robotique à l'école. Mm-hmm. Ce n'est pas une célébrité mondiale, mais c'est une femme qui, avec les montres, les robots, etc. On a des rôles modèles autour de soi. Il y en a. Toi, tu travailles avec d'autres ingénieurs.
Justement, moi, c'est ce que je vous avais dit en préparant l'émission. Effectivement, il y a les rôles modèles qui sont connus et tout ça, mais qui semblent un petit peu inaccessibles. Et donc, du coup, c'est important aussi d'avoir des rôles modèles qui sont plus proches de nous et qui nous semblent accessibles. Donc, moi, par exemple, je pourrais citer Marine Raberin, qui anime le collectif Femmes et IA dans l'association du Cercle Interel, qui est pour moi vraiment. Qui me donne envie, en fait. D'y aller, et voilà, j'ai envie de. Enfin, vraiment qui m'inspire dans sa manière de gérer le collectif et de travailler sur ces sujets. Ou aussi Roxana Rugina qui anime, pareil, le collectif Impact IA. Justement, c'est un collectif d'entreprises qui veulent partager les bonnes pratiques pour développer les technologies de manière éthique et responsable. Donc, c'est deux exemples qui me sont plus proches de moi, en tout cas, qui me donnent envie, voilà.
Oui, et même sans parler de rôle modèle directement, donc dans la deuxième partie du live qui arrive bientôt, on va parler des solutions un peu plus pratico-pratiques et à l'échelle humaine et un peu moins technique pour lutter contre la sous-représentation des femmes dans la tech. Un chiffre qui fait peur, c'est de l'enquête GenderScan, 43% des étudiantes du numérique ont été découragées à la base par leur entourage de faire ce choix d'orientation. C'est pour ça aussi que je t'ai dit, c'est intéressant que tu dises « j'étais forte en maths, donc on m'a orientée vers ingénieur », ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes fortes en maths ou en sciences en général. Et là, je pense que chacun peut jouer un rôle, parce que chacun peut être la personne qui va dire à une jeune fille de son entourage, ou à un jeune garçon, ça marche aussi, en fait, t'as ta place dans ces métiers-là, tu peux t'y représenter, tu peux t'y projeter. Est-ce que, toi, Anis, est-ce que ça t'arrive d'être au contact de jeunes, et notamment de jeunes filles, qui envisagent peut-être les métiers du numérique? Et qu'est-ce que tu leur dis pour faire en sorte qu'ils se sentent représentés qu'ils et elles se sentent représentés dans ce milieu?
Ouais, alors, moi, j'ai grandi en cité, à Marseille. D'accord. Et quand j'étais en troisième, etc., moi-même, on m'a dit, mais non, mais fais pas seconde générale, fais pas scientifique, etc., fais des métiers manuels, etc., etc. Et là, en ce moment, là, ça fait quelques mois, j'ai un lead motive. Je suis persuadé que le numérique fait partie des vecteurs d'émancipation dans la société. Du coup, là, je me retrouve à repartir dans des quartiers, etc., et à discuter, à leur dire, mais vous savez, c'est possible, etc. Et moi, ce qui me trouble quand je vais dans ce quartier à Marseille, qui est chez moi, hein, quand je dis ma quartier à Marseille, j'ai l'impression d'être un politique. Qui dit
dans les quartiers,
dans les quartiers.
C'est chez moi.
Anis rencontre la population.
Parce que je suis là, c'est ça. Ouais. T'inquiète, tout va bien.
et en fait, c'est aussi bien des petites filles que des petits garçons, ouais, quoi, tu vois.
Bah oui.
Et ce que tu disais, découragé par son entourage, moi, je trouve c'est horrible, en vrai. C'est-à-dire d'avoir des gens, tu dis à un moment donné, purée, j'ai trop envie de faire ça, peut-être que c'est pas pour moi, mais j'ai trop envie. Et il y a quelqu'un qui te dit, parce que depuis des générations, peut-être, on a éduqué les gens comme ça, ah non, fais pas ça, tu sais, les femmes, elles doivent faire infirmière, elles doivent faire ça, etc. Non, mais franchement, j'aime pas ça. Genre, j'aime pas le déterminisme social, tu vois. Mm. Et je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment réussir à casser ça. Ça passe par des rôles modèles, ça passe par des campagnes de communication, ça passe par des entreprises qui portent ce message, tu vois, comme on est en train de faire là, sur Twitch, etc. Et je trouve que c'est ultra important, parce qu'après, il y a des gens qui vont dire, oh, c'est bon, tu sais, c'est pas important, c'est pas grave. Si, c'est grave, tu vois, parce qu'après, ça s'impacte sur des générations. Et à un moment donné, il faut venir commencer à grappiller petit à petit. Désolé, je parle de manière passionnelle, parce que c'est vraiment
c'est
quelque
bien,
chose qui
non,
me passionne. Mais c'est ultra important, quoi. C'est ultra important.
T'en as parlé un petit peu, Mimi, et c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur.
Oui.
Qui est aussi un frein important pour les femmes. C'est un mot technique, syndrome de l'imposteur, qui désigne ce que tu as expliqué.
En gros, c'est le fait d'intérioriser l'idée qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas pertinente, pour des raisons qui sont souvent liées à notre identité. Ça peut être le genre, parce que là, on parle d'égalité homme-femme, mais comme tu l'as dit, Anis, il y a aussi des problématiques de classe sociale, de personnes racisées aussi, qui peuvent être sous-représentées dans le milieu de la tech, et de personnes issues de quartiers populaires. Tout ça peut générer un syndrome de l'imposteur, où on va s'auto-persuader, parfois sans même se rendre compte qu'on n'est pas légitime, et du coup, on va même pas essayer. On va pas essayer de s'orienter vers là, on va pas postuler un job, on va pas demander une augmentation.
Et ça, pour le coup, ça a été mesuré objectivement, scientifiquement, lorsque des entreprises ouvrent des postes et demandent des candidatures, dans les compétences requises, quand il y a une liste de compétences, un homme qui va avoir 9 compétences sur 10 va se dire oui, bah, je vais postuler, la 10e, je ne l'ai pas, mais on verra bien, enfin, c'est possible.
T'es généreux, à mon avis, 7 compétences sur 10, les mecs ouais, sont déjà allez-y, il n'y a pas de souci.
Là où une femme, effectivement, s'il lui en manque une, elle va se dire le poste, il ne va pas être pour moi, je ne vais même pas candidater. Et c'est très intéressant, c'est cette logique d'autodisqualification dont, on le sait, les petites filles sont plus victimes que les petits garçons, et ça se voit dans l'orientation scolaire. Et donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, non, si vous n'êtes pas super forte en maths, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bosser dans la tech, bien au contraire, il y a plein d'autres métiers, etc.
Ouais, le message, c'est vraiment oser, hein, même si vous n'avez pas l'impression de contrôler tout, bah, au contraire, oser, vous apprendrez, on a le droit de se tromper, on se réoriente, enfin voilà, c'est vraiment ça, faut oser les sciences.
Ouais, moi, plein de fois, j'ai accepté des projets que je ne savais pas faire, et j'ai dit oui, t'inquiète, je sais faire.
Ah mais fake it, c'est la merde, fais semblant jusqu'à ce que tu saches faire.
En politique, je crois que j'ai fait quoi.
Il y a peut-être juste un petit truc intéressant à noter, c'est qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, on notait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui se dirigeaient vers les domaines scientifiques. Tu vois, à mon époque, c'était S, EL, ES, je crois, ça a changé, bref. Et en fait, ça avait été démontré que c'était encore une fois du déterminisme qui disait si on te dit que tu ne peux pas être bon, t'as un blocage dans le cerveau qui fait que tu ne vas pas être bon. Tu vois. Et en fait, je constate qu'on retrouve à peu près la même chose avec l'info aujourd'hui, tu vois, l'informatique aujourd'hui. Et je pense qu'il faut, il faut casser ça avec un gros bulldozer. Quoi.
Ouais, exactement. Je vais faire un sondage dans le chat, ça m'intéresse. Je crois déjà connaître la réponse, parce que j'ai déjà fait le sondage il y a quelques jours. C'est quoi votre genre à vous ? Homme, femme ou autre, dites-moi, je lance le sondage, vous cliquez et vous me dites.
Avoir une petite idée de la réaction du public. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de femmes, parce que c'est un sujet qui parle des femmes.
Je ne sais pas.
On espère.
On espère
la parité, évidemment.
On espère la parité, mais non, parmi les biais, il y a aussi la question des publics qui sont touchés par les sujets qu'on aborde sur Internet, je le sais très bien.
Oui, clairement.
Ouais, exactement.
Et je pense sur cette question du syndrome de l'imposteur, c'est aussi pour ça que c'est très important d'avoir des équipes diverses, parce qu'il y a un autre truc qu'on théorise dans le féminisme qui s'appelle le syndrome de la schtroumpfette, où souvent il y a une seule femme, femme dans une équipe d'hommes. Et le problème, c'est que du coup, on va pas être jugé pour nos compétences, mais on va un peu représenter le genre féminin, et du coup, si on rate, on va appuyer le stéréotype de bah tu vois, les femmes elles sont nulles en maths parce qu'on a raté un truc en maths, alors que quand un homme rate, on dit pas. Tu vois, c'est bien la preuve que les hommes sont pas bons. Et je pense que là-dessus, du coup, avoir plus de femmes, enfin plusieurs femmes, juste ne pas avoir une personne qui représente chaque groupe dans une équipe, mais avoir une pluralité, ça permet aussi de pas se sentir seule garante de la place des femmes dans la tech, toute seule dans son équipe.
Après, je trouve que ça a des avantages aussi, hein, parce que les schtroumpfettes, elles sont quand même bien accueillies, elles sont chouchotées en fait par les équipes de garçons. Donc,
il peut y avoir une discrimination positive.
C'est aussi favorable aussi aux femmes. On est plutôt encouragé, justement poussé, on est remarqué. Donc, il y a aussi des avantages.
On a 3/4 d'hommes dans le public, et c'est la stat à peu près stable sur ma chaîne et sur Twitch d'une manière générale. Donc voilà, pas d'étonnement de ma part là-dessus.
Je pense qu'on peut casser sur les chaînes tech sur YouTube.
On
a 80, quand on compare avec d'autres copains à chaque fois, souvent on a 98% de mecs sur les chaînes tech sur YouTube.
Et c'est bien, ça veut dire que le sujet intéresse quand même aussi beaucoup d'hommes.
Et au demeurant, oui, ça intéresse.
Parce que les hommes, évidemment, ont aussi un rôle à jouer, soit déjà en encourageant les femmes et les personnes en général de leur entourage qui se projettent dans la tech. Quelqu'un dans le chat disait, c'est un domaine hyper porteur, ça n'a aucun sens. Quand tu parlais notamment des gens des quartiers populaires, ça a encore moins de sens de décourager ces gens d'aller dans la tech, qui est un secteur qui peut représenter une vraie opportunité pour les femmes et pour tout le monde, finalement. Donc, les hommes peuvent jouer un rôle ne serait-ce qu'à cette échelle-là. Et puis après, comme on l'a dit, les IA, les algorithmes, les biais, ça concerne tout le monde. C'est la société qui se répond à elle-même, quoi.
On arrive à la fin de cette première partie de l'émission. Je ne veux pas qu'il y ait de regrets. Est-ce qu'il y a quelque chose, Anis, Émilie, que vous avez envie de hurler à la face du monde et que vous regretteriez de ne pas avoir dit sur ce plateau à cette occasion?
Ne hurlez pas pour de vrai, parce qu'il y a des...
Vous avez des micros.
Non, mais j'espère qu'on vous a donné envie, quoi. C'est ça le message.
Carrément, Anis.
Si on vous dit que ce n'est pas possible, croyez pas, quoi. Si vous avez envie de faire un truc, allez-y, et c'est tout. En vrai... Il n'y a rien de pire qui m'oppresse que les gens qui cassent les rêves des autres gens, quoi. C'est tout, voilà.
Eh ben merci à tous les deux. Merci beaucoup pour ce premier échange. On va se mettre un petit générique pour enchaîner avec la deuxième partie. On se retrouve juste après. De retour avec vous, les amis, sur plateau. Voilà, je suis toujours avec Mimi, ça va ?
On a appris plein de choses, hein.
On a appris plein de trucs, c'était très cool. Je vous rappelle, pour les gens qui ont posé la question dans le chat, que les deux premiers intervenants étaient Anis, plus connu sous le nom Defend Intelligence, que vous retrouverez sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch également, qui est ingénieur et aborde ces sujets-là. Et on était aussi avec Émilie
Sirvent. Sirvent, si je ne dis pas de bêtises.
Qui est ingénieur chez Orange et qui est chef du programme de recherche sur l'IA et l'éthique. Donc voilà, ça c'était pour la première partie. Effectivement, on a parlé de biais. On a vu que rien n'est neutre, sûrement pas les algorithmes et les IA, et c'est normal.
Ni les gens qui les créent, ni les gens qui les nourrissent. Donc forcément, on arrive avec beaucoup de questions.
Les data qui les nourrissent, les gens qui les font. Voilà, et que l'une des solutions, c'est de féminiser le monde de la tech, les personnes qui travaillent dedans, et que, bah voilà, il y a la question des rôles modèles, il y a la question de lutter contre le syndrome de l'imposteur.
D'orienter les jeunes filles, légitimer dans ces métiers aussi.
Et pas que les jeunes filles, la reconversion professionnelle aussi plus tard dans la vie. Donc voilà, ça déjà c'est des pistes assez intéressantes. Bonjour si vous nous rejoignez. On est en direct dans cette émission spéciale. Je suis avec Mimi qui est créatrice de contenu. Et on co-anime cette émission sur les femmes dans la tech. On va continuer à discuter. On est en partenariat avec Orange, donc qui mène le programme depuis 2 ans qui s'appelle Hello Woman, qui travaille justement sur ce sujet précisément.
Tout à fait.
Voilà. On a quoi au programme dans la suite de cette émission ?
Au programme, donc là, on a beaucoup parlé de technique, on a beaucoup parlé des biais qui peuvent être mis en place dans les algos et dans les IA. On va parler de solutions un peu plus humaines avec deux humaines de qualité qui vont nous rejoindre. On va essayer de voir c'est quoi la réalité des femmes qui travaillent sur Internet,
ouais,
et des créatrices de contenu notamment, et comment on peut, et on s'inclut dedans, la société en général peut œuvrer pour améliorer la place des femmes sur Internet, mais aussi leur vécu, parce que c'est bien qu'il y ait plein de femmes sur Internet, encore faut-il qu'elles y vivent une vie apaisée et sereine. Donc on va aussi parler potentiellement de lutte contre le cyberharcèlement sexiste, et qui sont des problématiques que tu as déjà
qui font partie du sujet,
évoquées sur ta chaîne, puisque c'est un problème de société. Du coup, voilà, c'est les sujets de cette deuxième partie. On est ensemble jusqu'à 17h.
Et on est ensemble jusqu'à 17h. Continuez à participer dans le chat. Vous êtes avec nous, oui. On vous lit. Merci pour vos interventions, vos questions et autres réactions. Ça nous intéresse beaucoup. Pour parler de ce sujet, j'invite les deux prochaines invitées à nous rejoindre sur le plateau. Il s'agit de Nawel et de My Better Self. Bonjour toutes les deux.
Hello, welcome.
Installez-vous confortablement.
C'est bien chez vous.
C'est sympa,
bien,
hein, t'as vu ?
Franchement.
Nous, on a carrément
on a le droit aussi d'être en chaussettes.
Vous avez
le droit d'être en chaussettes. C'est un privilège.
Non, mettez-vous en
chaussettes. Tout le monde a le droit d'être en chaussettes.
J'ai pas la souplesse,
moi. C'est
vrai, moi, je pense que je vais finir comme ça, si ça
veut. C'est mon côté yogi.
T'as vu, c'est sympa.
Aide à mieux penser.
Mais oui, carrément. Nous, on rejoint donc sur ce plateau. Bonjour à toutes les deux. Nawel, tu es fondatrice de Loopin,
ouais,
qui est un accélérateur, enfin un programme d'accélérateur.
Loopin, c'est une agence
de talents.
Ouais. On représente des créateurs et des créatrices de contenu,
ouais,
qui ont un impact positif sur nos cerveaux et sur le monde. Donc, on accompagne 40 profils sur leur carrière et sur leur relation avec les marques. Et on lance aujourd'hui, en vrai, là, maintenant, à l'instant,
c'est une annonce
à l'instant tout de suite, là,
c'est
on lance avec Orange Better, qui est un accélérateur pour les créatrices de contenu. Et le but, c'est d'aller aider 10 femmes à accélérer leur carrière sur les réseaux, donc à consolider leurs acquis. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion de...
Tout à fait.
Plus
le lien est déjà dans le chat, mais on aura l'occasion
on va en parler.
D'en reparler.
Attends, je te mets VIP sur le chat parce que tu peux toujours pas mettre de lien. Mais...
Ah oui, alors, Louise, alias My Better Self, bonjour.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter pour les gens de Twitch qui peut-être te connaissent un peu moins que les gens du reste des internets quand même ?
Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Louise Aubéry, j'ai 25 ans. Je suis créatrice de contenu, entrepreneur et autrice. Et j'essaye d'avoir un impact positif également, on va dire, sur la société. Je parle des sujets qui me tiennent à cœur, j'essaie de faire bouger les choses, et donc notamment d'aider les femmes à se sentir bien dans leur peau, dans leur tête. Et je pense que c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui.
Tout à fait.
Vas-y.
On parlait de comment amener les jeunes filles dans les métiers du numérique, et bah, créer sur Internet, c'est un métier du numérique aussi. Toutes les deux, vous vous êtes lancées. Donc toi, Nawel, à la base, tu étais créatrice de contenu aussi, avant de lancer ton agence. Et toi, Louise, tu t'es lancée directement en créatrice de contenu. Qu'est-ce qui a fait ? Vous êtes venue à vous dire « Ok, je vais lancer des trucs sur Internet, me mettre en avant et peut-être qu'un jour ça deviendra mon métier », alors que vous êtes une femme. Quelle idée !
Quelle idée !
Quand même.
Faut faire ça.
Moi, parce que j'inventais des émissions de télévision, pour rien vous cacher, au départ, et que j'avais cette idée de lancer une émission de critique littéraire pour toucher les jeunes, puisque je n'arrêtais pas d'entendre que les jeunes ne lisaient plus. Et je me suis dit « Ils sont où ? Bah, ils sont sur YouTube, bah, alors on va aller parler littérature sur YouTube. » Je parle de ça... C'était il y a une certaine époque, hein, c'était en 2015. Et donc, j'ai lancé ma chaîne avec deux copines, deux amies. On a lancé une chaîne de critique littéraire. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé mon métier d'aujourd'hui, mais à l'époque, je ne savais pas que ça allait devenir mon métier.
Mais est-ce que tu savais déjà, donc 2015, il y a déjà des gens qui gagnent leur vie sur YouTube, c'est pas ça, ce truc de ça m'est tombé dessus, mais je savais pas que ça pouvait
être... En vrai, tu pouvais pas vivre de, vraiment de YouTube, ou en tout cas dans le milieu de la critique littéraire encore moins.
Ouais, YouTube en France, ne paye pas beaucoup de résidences secondaires.
Donc, ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, c'était fin 2014-2015, il y avait peut-être les gros créateurs, parce que je pense qu'on pouvait même pas parler de grosses créatrices, il devait y avoir déjà Angel Phoenix, mais je me rends pas compte de ses revenus à cette époque-là. En tout cas, moi, j'en avais pas... Enfin, j'y allais pas en me disant il y a de l'argent. Enfin, j'avais pas conscience que ça pouvait être une carrière et qu'il y avait un business. On était au début, hein, c'était quand même installé. Mais j'y allais pas pour ça. Enfin, en tout cas, j'avais pas du tout conscience que ça pouvait être un métier agent, en tout cas, et de négocier avec des marques. Et ça a marché. Moi, j'y allais pour lancer ça et potentiellement après la revendre en émission de télé, en fait, en me disant. Parce que moi, j'étais très dans mon axe.
On va créer ce contenu.
Au départ.
Manque peut-être puisque les, alors les jeunes ne lisent toujours pas apparemment donc parce qu'apparemment
mais
internet
si, ils ont jamais autant lu en fait
tu vois, la puissance mais même la puissance du BookTok
exactement
c'est assez ouf en fait
je pense que c'est un gros truc de boomer
ouais vu que t'as accès plus facilement avec les bibliothèques avec Kindle et tout
Je crois pas. Ils lisent différemment. Ils lisent peut-être d'autres choses aussi, mais
oui, peut-être qu'ils se ruent pas sur le dernier Goncourt. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils lisent pas et qu'ils lisent pas de livres. Et les mangas, ça compte comme des livres.
Pour exactement. Et les BD, ça compte comme des livres aussi. Et Harry Potter, ça compte aussi.
Et Harry Potter, oui, exactement. Louise, toi aussi, tu es créatrice donc sur Internet. Ça fait combien de temps et comment ça s'est passé ton lancement?
Ça fait 6 ans que je suis créatrice de contenu et en fait, ça n'a pas tellement été réfléchi. Et c'est là où, personnellement, dans ma démarche féministe, vu que ce n'est pas un gros mot, j'ai quand même observé qu'il y avait, on va dire, différents profils de femmes. Et différents... Je pense que la personnalité joue énormément dans les biais qu'on peut retrouver par la suite. Et l'éducation, évidemment. Mais, si vous voulez, pour moi, ça n'a pas été, genre, me faire violence... que de m'afficher sur Internet. En fait, j'étais juste là, bon, il y a des gens qui font des trucs cool, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire des trucs cool? Et en fait, pour échanger avec d'autres femmes, il y a beaucoup plus, chez certaines, tout de suite la peur du jugement, tout de suite la peur du regard des autres, qui est moins présente chez les hommes, peut-être parce que aussi, dès l'enfance, on leur donne plus, on va dire, de confiance en eux-mêmes pour accomplir des projets, alors que beaucoup moins les petites filles. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance de me dire, en fait, j'ai envie de créer des choses. Moi, j'adorais écrire. Donc, pareil, où sont les gens? En fait, ils sont plus sur Instagram que sur des blogs. Tu vois, moi, les blogs, c'était déjà un peu has-been en 2016-2017. Et puis, voilà, quoi. J'ai pas su réfléchir. Et je pense qu'en fait, c'est une force de ne pas se soucier de ce que les gens pourraient dire. Et ce qui est aujourd'hui un énorme frein pour beaucoup de femmes.
Et d'ailleurs, pardon, quand moi je me suis lancée en fait sur les réseaux, c'était pas moi, c'était un personnage. On était comédiennes toutes. Okay. On jouait des rôles. Et je me suis rendu compte quelques années après qu'en fait, pourquoi j'y suis pas allée en mon nom? Pourquoi j'ai pas juste monté ma... je me suis grave protégée en fait. On a mis des personnages entre nous.
C'est une démarche relativement peu réfléchie sur le début, mais est-ce qu'il y a un moment où ton genre a eu un impact, positif ou négatif? Est-ce que tu saurais te souvenir d'un moment particulier où t'as percuté que c'était un enjeu?
Est-ce qu'il y a un moment précis où j'ai percuté que c'était un enjeu? En fait, c'est beaucoup en échangeant avec des créateurs hommes.
Ah ouais?
Ouais. Mmh. Et en réalisant qu'ils ne vivaient pas du tout la même réalité que moi, notamment sur YouTube, où en fait, j'étais... pas mal exposée à des critiques. Et donc, je me disais, c'est le lot d'Internet. Et en fait, les mecs me disaient, mais attends, mais c'est hyper violent. Moi, j'ai jamais eu ça commenté sur mes vidéos. Et je me disais, ah bon, mais pourquoi? Et en fait, j'ai commencé à réaliser que, je pense, il y a une forme de je sais pas si on peut dire jouissance, mais en tout cas, j'ai l'impression que certains hommes usent et abusent de leur pouvoir pour essayer de remettre les femmes à leur place. Donc en fait, sachant qu'ils ont le pouvoir sur Internet de s'exprimer, ils l'utilisent pour insister sur leur rapport de domination ou sur une potentielle hiérarchie qui existe encore entre les genres. C'est comme ça que j'ai interprété, parce que je ne vois pas pourquoi sinon... en termes de pourcentage, en termes de statistiques, c'est assez clair que les créatrices sont beaucoup plus exposées à la critique que les hommes. Alors je ne sais pas s'il y a encore des hommes de mauvaise foi pour dire c'est peut-être que leur contenu est moins bon, mais là, c'est vraiment, vraiment faire preuve de mauvaise foi. Et du coup, je me suis dit, je pense que ça va être plus difficile pour moi d'être créatrice. Et après, voilà, j'étais déjà assez engagée pour le féminisme. Ce n'est pas forcément ça qui a fait que. Mais disons que ça, je pense, renforçait encore plus ma volonté de lutter contre les stéréotypes, de lutter contre les inégalités.
Est-ce que tu l'as ressenti aussi sur ta croissance? Parce que je pense que c'est une vraie réalité aussi qui est peut-être peu prouvée, mais je pense que les femmes, en tout cas sur YouTube, elles grossissent moins vite. Est-ce que toi, tu l'as ressenti dans ta croissance? Est-ce qu'il y a des hommes qui se sont lancés en même temps que toi et que tu as vu aller beaucoup plus vite dans leur chemin? C'est compliqué de mesurer.
Ouais, mais... j'étais toujours concentrée sur mon propre chemin, donc tu vois, je ne me suis pas outre mesure comparée à d'autres. Mais après, Hugo Travers, on était ensemble en cours. On a lancé à peu près en même temps. Il était quand même un peu avant sur les réseaux. Bon, voilà, il a
un sujet qui est forcément... Mais oui.
Mais oui, en plus, il a un sujet qui parle à tous et toutes. Mais je ne sais pas si une femme aurait pu avoir le succès d'Hugo, tu vois.
Je pense qu'elle aurait dû plus faire ses preuves sur sa légitimité à parler de sujets importants, entre guillemets, là où une femme, sur des sujets considérés comme futiles ou de dev perso, donc psychologie, etc., elle va être peut-être un peu plus attendue.
Ouais.
Mais c'est intéressant que tu en parles. Tu disais, il y a peut-être, j'espère qu'il n'y a plus des hommes de mauvaise foi capables de dire non, c'est pareil. Je pense qu'un contre-argument qu'on entend souvent, c'est tout le monde en prend cher sur Internet. Tout le monde se fait insulter, les hommes comme les femmes. Tu vas sur n'importe quelle chaîne Twitch un peu d'ampleur ou n'importe quel commentaire YouTube, tu vas avoir des créateurs qui sont insultés et des créatrices qui sont insultées. C'est pas forcément faux, mais je pense qu'en termes déjà de fréquence, de volume, comme tu dis, t'en avais beaucoup plus, et d'intensité des insultes, parfois des menaces, et aussi sur quoi se portent ces critiques. Parce que critiquer ton contenu, ton professionnalisme, peut-être même la technique, ce qui a amélioré, bon, la critique peut être...
constructive, bienveillante,
etc. Critiquer ton physique, critiquer ta manière de te mettre en scène en tant que femme, c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus recevoir que les hommes qui vraiment... No offense tout genre, mais 95% des hommes sur Internet, ils se coiffent vaguement, ils mettent un pull et c'est bon, ils sont prêts. Quoi. Je pense qu'on
va même être
on a collectivement plus travaillé pour ce live en termes d'apparence.
Mais tous les jours, c'est pas que pour ce live.
C'est clair.
Oui, tous les jours. Je passe plus de temps dans ma salle de bain que mon compagnon, forcément.
Yes, et pourtant, on n'est pas, voilà, on n'a pas une full face make-up hyper visible selon vous, mais c'est du travail.
C'est clair.
Tout ça pour ça.
Ça ne vaut pas le coup, voilà pourquoi, il faut arrêter.
Ça fait 7 ans que je parle de politique sur Internet face cam. Je n'ai absolument jamais eu de réflexion.
Ça, c'est fou.
Sur
on n'a pas demandé à racheter tes collants, par exemple. Moi, on avait eu
Ah, yes. Et tu vois, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, il a fallu que je fréquente et que je discute avec des copines créatrices pour comprendre la réalité de ce qu'elles vivaient et pour comprendre que si j'avais été une femme, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Donc en fait, c'est l'espèce de privilège que j'ai de ne jamais me poser la question de savoir ce que je vais foutre aujourd'hui dans ma cam. Je prends le premier t-shirt au-dessus de la pile, le premier sweat, je m'en fous complètement, et je ne m'intéresse pas à est-ce que je suis coiffé, est-ce que je suis prêt, etc. Et c'est un luxe énorme. Et c'est un luxe énorme, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de sexualisation, de remarques graveleuses, de commentaires. J'ai mon lot en politique. En plus, il y a un côté au carré, les femmes en politique, effectivement, la question de la légitimité et tout. Donc,
c'est un vrai point sur aussi les stéréotypes de genre. Je pense toutes les deux, au final, moi, je me suis lancée sur la littérature, alors en plus, avec un personnage, mais je me dis, je lis autant que je joue aux jeux vidéo, et à l'époque, ça ne m'a pas traversé l'esprit de faire quelque chose sur les jeux vidéo, alors que j'aurais pu prendre la parole et je pense que j'avais autant de choses à dire. Mais je pense qu'il y a quand même un truc de... Si on prend la parole sur... Parce que c'est déjà difficile et qu'on va d'abord prendre la parole sur des sujets où on a le droit, entre guillemets...
Ouais, et en fait, ce qui est assez fou, et je me rends compte aussi en vous en parlant, c'est que je pense que pour beaucoup d'hommes comme de femmes, d'ailleurs, on va beaucoup plus juger les femmes par rapport à leur apparence physique que par rapport
à
ce qu'elles vont dire.
Elle est négligée, elle aurait pu faire un effort, etc. Il y a peut-être des gens qui se disent mais on n'a pas besoin de se maquiller pour ce live. On est là, nous on s'est maquillés, personne nous oblige.
Elles vont vite être réduites à leur apparence physique, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des filles qui streament, enfin des femmes qui streament, et qu'il y a des mecs qui vont être déçus parce qu'elles n'ont pas une certaine apparence. Et en fait, c'est là où tu te dis, il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'elle vient pour, je sais pas, que ce soit pour jouer, pour parler, pour débattre, mais il y en a encore beaucoup. Enfin, ce pourquoi ils viennent, au final, c'est pour les voir.
Il faut être d'abord agréable à regarder.
Je pense que le porno joue énormément, tu vois. Enfin, on va pas se leurrer. Hein, c'est...
Bonjour à vous qui nous rejoignez. On est toujours en direct sur cette émission où on parle des femmes dans la tech. Dans cette deuxième partie, on est avec Nawel qui va nous parler de son accélérateur Better qu'elle a créé avec Orange. On est aussi avec Louise, donc de la chaîne My Better Self, pour parler de l'expérience des femmes dans la tech en tant que créatrice de contenu et des solutions éventuellement qu'on peut mettre en place pour accompagner, aider, soutenir les femmes qui se lancent sur Internet. Je suis toujours avec Mimi, avec qui on co-anime cette émission. Bienvenue dans le chat, hein, continuez à discuter avec nous, on vous lit, vous êtes avec nous, évidemment. Ce que je voulais te demander justement, c'est, on a parlé de votre lancement à l'époque, votre début. Toi aujourd'hui, Nawel, tu accompagnes des femmes qui se lancent, pour certaines d'entre elles. Est-ce que tu as vu une évolution ? Comment, aujourd'hui, les femmes se lancent sur Internet, en 2023 ?
Alors, j'avoue que moi, j'interviens à un moment où elles sont déjà un peu lancées, où elles commencent à avoir une carrière, qui sont installées. Moi, je vois l'utilité qu'on a eue dans, quand on a commencé à accompagner certaines créatrices qui avaient moins réussi à monétiser leur carrière, donc à faire moins de partenariats, etc. Donc, elles étaient à nombre d'abonnés équivalents, moins bien rémunérés. Non pas parce que les marques les payaient moins, mais parce qu'elles osaient moins bien négocier, parce qu'elles sont moins sollicitées aussi. Mmh. Je pense qu'il y a quand même un réflexe d'abord d'aller vers les garçons. Et donc, notre première intervention, elle est là, nous, en tant qu'agence, c'est de les aider dans leur carrière pour consolider leur situation économique. C'est-à-dire qu'il y a certains profils qu'on a récupérés qui étaient en déficit et qu'il a fallu remettre à flot. Et quand elles arrivent dans cette situation, moi, je ne comprends pas avec ce que tu fais, la qualité de ton contenu et ton nombre d'abonnés, bah, j'ai un tel dans mon équipe qui fait tant, tu devrais pouvoir générer autant et embaucher autant de personnes, etc.
En même temps, désolée de te couper, mais pour rebondir, toutes les deux, vous nous avez dit que vous ne vous êtes pas lancée en vous disant « ça peut être un métier et je peux gagner ma vie comme ça ».
Oui, mais c'était en 2015.
Est-ce que tu penses que c'est une question d'époque ou est-ce que les hommes peut-être ont plus de facilité aussi à se dire « je vais être créateur de contenu pour gagner ma vie »
Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours compliqué de parler à la place des gens, mais je pense qu'aujourd'hui quand même, il y a les jeunes femmes que j'ai, enfin les plus jeunes de la team, elles se sont dit « tiens, ça peut être mon métier, je peux me rémunérer
c'est
avec
identifié
ça ».
C'est identifié comme une carrière, quoi.
Un peu plus. Maintenant, est-ce qu'elles vont pour autant oser ? Je ne sais pas, tu vois. Est-ce que tu... Et aller, là encore, sur des sujets différents, tu vois, est-ce que des chercheuses en mathématiques vont oser lancer leur chaîne YouTube pour parler de mathématiques ? C'est encore une autre question.
OK.
En fait, ce qui est très dur, et c'est une question que je me pose moi-même, j'allais dire tous les jours, mais presque, c'est à quel point le plafond de verre qu'on observe, au final, dans tous les métiers, est dû à l'éducation qu'on donne aux femmes et donc à leurs propres limitations ? À quel point c'est dû aux stéréotypes, aux clichés, aux idées reçues qui sont encore présentes dans notre société, des hommes, enfin des femmes en l'occurrence, mais voilà, des hommes et des femmes. Et ça, c'est très difficile mais du coup, c'est difficile de savoir où commencer à agir. Enfin, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même toujours énervée, c'est que tu prends vraiment, je pense, tous les domaines d'activité. Il y a beau y avoir beaucoup plus de femmes en termes numériques, il va y avoir à la tête de l'échelle des hommes.
Oui.
Tu prends la cuisine.
Oui.
C'est quand même un truc censé être typiquement féminin.
Mais les grands chefs,
quand même
sont des femmes.
Les grands chefs sont des hommes,
ne sont pas des femmes.
Les grands chefs qu'on connaît tous sont des hommes.
Oui.
Et en fait, ça vaut, mais pour tout, même les grands couturiers. Même.
Oui.
Et en fait, c'est là où tu te dis, il n'y a pas que un manque de volonté de la part des femmes. C'est
qu'il y a bel talent, et bien...
Je crois qu'il y avait une étude qui avait été menée et pour le coup, on laissait le choix aux femmes comme aux hommes d'avoir un médecin femme ou homme et la grande majorité, je crois que c'était à 75%, choisissait un homme. Parce qu'en fait,
dans l'imaginaire des gens,
les hommes sont encore plus compétents.
Ouais.
Enfin, faut le dire, tu vois. En fait, sachant qu'en même temps, tu vois, ça fait sens, ils ont occupé le marché du travail pendant des siècles. On est sur le marché du travail depuis moins d'un siècle.
Enfin, oui, ça fait pas si longtemps qu'on
ça fait
a des
pas
personnes
si longtemps, tu vois,
regarde la loi et que
nous avons travaillé par exemple. Compte en banque.
Voilà, sans l'accord de notre mari, attention.
Ouais. Donc en fait, c'est bien que je pense qu'il y a un manque de lutte contre ces stéréotypes qui sont hérités des siècles passés.
On a parlé de rôle modèle dans la première partie de l'émission en disant que ça participait des mécanismes à mettre en place intéressants pour aider les femmes à se lancer. Est-ce que vous en aviez eu, vous, des rôles modèles dans votre carrière? Rôle modèle, attention, ça peut être des stars planétaires que tout le monde connaît, ça peut aussi être des personnes proches. Ça peut être
la première femme qui vous a dit bah oui, tu peux te mettre devant une caméra et parler, ou la première prof qui vous a donné confiance en vous à ce niveau-là. Quoi.
Mais je pense qu'inconsciemment, oui, je pense que si jamais je n'avais pas suivi des femmes sur les réseaux sociaux qui étaient créatrices de contenu, est-ce que je me serais vraiment lancée, tu vois, s'il n'y avait que des hommes avant moi? Je pense pas, parce que oui, l'identification est essentielle. elle est essentielle pour moi, ouais. pour se rendre compte du champ des possibles. Et s'il y avait plus de femmes dans la tech, je pense qu'il y aurait plus de femmes qui candidatent pour des métiers dans la tech.
Moi, je pense, sur ça, j'ai toujours eu, je suis toujours tenté des choses sans trop me poser ces questions-là, et j'ai pas eu... À l'époque, je devais regarder un peu Anja Phoenix et Natou, mais c'était pas ça. Moi, j'ai plus eu un frein aujourd'hui dans mon métier en tant qu'agent, de me dire que c'était pas un métier que j'ai appris à l'école et que c'est pas un métier que j'ai appris de quelqu'un d'autre, et qu'il y a eu des moments où j'ai eu des vraies crises existentielles en me disant, mais est-ce que je sais, est-ce que je suis compétente, est-ce que je suis légitime pour ça?
C'est quoi la situation dans ton métier d'agent? Est-ce que les hommes sont plus sont surreprésentés? Alors, c'est peut-être spécifique.
Je pense de manière globale, on manque de statistiques. On manque de statistiques sur ça, on manque de statistiques sur les revenus des femmes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est dur de te répondre. Mais de ce que je vois, il y a encore une. Selon les sujets, bah, il va y avoir plus d'agents femmes sur certains secteurs d'activité. Je pense que dans le milieu des jeux vidéo, bah, il va y avoir plus de gens agents hommes, et dans le milieu du lifestyle, il va y avoir plus d'agents femmes. Et c'est ça aussi qui est important pour moi, c'est que c'est super, il y a des femmes qui font des super trucs, mais j'aimerais qu'il y ait des femmes dans tous les secteurs d'activité, sur tous les sujets. Et aujourd'hui, on a réussi à prendre notre place sur ce secteur lifestyle qui était déjà un combat, parce que pendant longtemps, c'était quand même les hommes qui nous parlaient de nos propres soins, de comment il fallait s'habiller. Donc ça, c'est déjà un bon truc. Mais j'aimerais bien qu'on puisse aussi parler des autres secteurs qui ne sont pas que réservés aux hommes.
Vous avez conscience d'être devenus des rôles modèles ou pas?
Est-ce qu'on n'est pas tout le rôle modèle de quelqu'un d'autre?
Ouais, peut-être, mais vous deux, probablement pour plus de filles que la plupart des femmes. Mais
bon. Quand tu as posé la question, je me suis dit oui, t'as raison, mais tu viens de m'en faire prendre conscience.
Ouais, non, mais tu vois, c'est.
Et t'as raison.
Ça y participe, on en parlait tout à l'heure, effectivement, faire émerger des rôles modèles. Alors après, est-ce qu'un rôle modèle a besoin de se ressentir comme tel pour que ça change quoi que ce soit? Pas forcément,
oui.
D'ailleurs. Oui, si tu penses
Non, je suis d'accord avec toi, en fait. On n'est pas obligé de se dire un jour en se levant, je suis le rôle modèle.
Tu as un petit rôle modèle.
Non,
mais voir comme ça.
Mais c'est vrai, avoir peut-être pas conscience de ça, mais peut-être que ça peut. Moi, en tout cas, quand tu m'as dit ça, ce qui a fait écho en moi, c'était de me dire, OK, je peux prendre plus la parole. Enfin, tu vois, peut-être les fois où j'ai refusé de prendre la parole ou de répondre à une interview ou un truc comme ça, je me suis dit, bah, en fait, vas-y pour ça, tu vois.
Comme tu disais, Louise, la représentation, c'est hyper important. Et même moi, bah, toi, Nawel, en tant que femme avec qui je partage pas mal de points communs et qui a fondé ton entreprise, qui maintenant embauche plusieurs dizaines de personnes, qui font un accélérateur et tout. Oui, c'est hyper inspirant, et du coup, je pense que c'est bien d'en avoir conscience sans se mettre une pression de fou, parce que le risque, c'est de se dire, je dois être irréprochable, je dois être tout le temps...
On se le dit déjà quand on est sur les réseaux.
C'est déjà quand on a une femme, quelque chose qu'on nous impose, et encore plus quand on a un métier public. Mais c'est bien d'avoir un petit peu conscience de, ah ouais, je joue un rôle, et effectivement, parfois, ça peut faire la différence quand on a un peu peur d'y aller, quand on n'ose pas, quand on est un peu, comme on le disait, en syndrome de l'imposteur, on en parlait dans la première partie, de se dire, bon... Si j'ose pas le faire pour moi, je vais peut-être le faire pour les gens que ça peut inspirer et qui vont pas trouver cette inspiration si c'est un énième mec quinca qui vient prendre la parole, quoi, même si c'est hyper intéressant et compétent.
On parle de se lancer, d'avoir une activité sur Internet quand on est une femme. Il y a quand même un éléphant dans la pièce, ce sont ces fameuses plateformes. On peut pas faire l'économie de la discussion autour des algorithmes de mise en avant, de recommandations, etc. Y a-t-il, est-ce que vous constatez, vous, dans votre pratique, dans votre métier, des algorithmes qui... embranche d'une manière ou d'une autre le contenu créé par des femmes?
Alors,
t'as l'air d'avoir des choses à dire, parce que moi, je t'avoue, je me suis pas posé la question de l'algorithme.
J'ai deux choses à dire.
J'ai plus les plateformes en tant que... Enfin, voilà, retour d'utilisateur, où je vois qu'ils modèrent très peu la haine qui est destinée aux femmes. Donc, t'en as un qui
vous dit, oui, de la modération.
On permet d'ouvrir, on permet de supprimer certains mots. Non, mais d'accord, mais en fait, t'inquiète, les gens sont imaginatifs. Ils vont t'inventer d'autres mots. Et puis, il y a aussi la réalité de la misogynie de certaines plateformes. Moi, je sais que je fais des tables rondes sur YouTube. J'ai pensé à le faire sur Twitch. Et en fait, tout le monde m'a dit, n'y va pas.
Alors, si en tant que femme sur Twitch, viens sur Twitch. Franchement,
non,
j'ai pas envie d'être, entre guillemets, la première.
Tu parles de tables rondes, j'ai pas bien compris.
Non, mais parce qu'en gros, j'ai un format entourage sur YouTube où je reçois d'autres créateurs, on est quatre, et en fait, clairement, je pourrais le faire en direct sur Twitch et ensuite le balancer sur YouTube.
Et bien, fais-le.
Et en fait, je sais pas, parce que pour moi, le but, c'est quand même de prendre du plaisir dans ma création.
Bien sûr, je comprends.
C'est de me faire allumer et insulter, parce que vraiment, tout le monde m'a dit, mais en fait, juste, soit on m'a dit n'y va pas, soit on m'a dit vas-y, mais attends-toi à ce que tu te fasses démonter.
Ouais, mais moi j'ai plusieurs créatifs qui me disent ça.
Twitch, me disent, c'est encore une plateforme qui fait peur et ça interroge aussi sur.
Mais pas que sur Twitch, moi j'ai des créatrices qui m'ont dit je vais pas ouvrir un réseau en plus, tu vois, ça soit aller sur Snap, Facebook, Twitter. Genre, j'en ai déjà deux, sur Instagram et YouTube, et je me fais déjà suffisamment allumer, je vais pas en. Et ça, je trouve que c'est un vrai frein de dire je vais pas lancer une nouvelle plateforme parce que j'ai peur de.
Ah ouais, là tu vois,
là
moi,
où
c'est
les clairement
la aucun raison.
Garçon qui m'a bien
voilà, donné la raison seule de ne pas aller sur Twitch, c'est. J'ai la pas envie de me faire allumer et de voir justifier mon
ouais, parce que t'as beau être solide, t'as beau faire attention, il y a un moment, t'es un être humain, lire des insultes, c'est... Ouais.
Mais oui,
bien sûr.
Les gens dans le chat, vous en avez conçu... Enfin, c'est un truc aussi que vous pensez qu'il y a une ambiance particulière sur Twitch en général, où ça va dépendre des communautés, etc. C'est pas pour ramener ma communauté devant les autres en disant que la mienne, elle est plus bienveillante, parce que c'est pas forcément vrai.
Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une discussion de TERF, faut juste ignorer.
Oui, déjà ça, sur le chat, il y a un débat en cours.
Oui, il y a un débat.
D'accord, ok.
Il part dans ses considérations. Parfois, le chat dévie de la conversation et rattrape. Notamment,
revenez parmi nous.
Pour leur digression.
Alors, on reprend, s'il vous plaît.
Non.
On se concentre pour la classe.
Que vous voulez, mais ouais, ça dépend des communautés. C'est un vrai sujet. Hein. Moi, je ne sais pas si la communauté de Twitch existe. Je pense qu'il, surtout depuis le confinement où Twitch a vraiment explosé, etc. Ouais. Il y a des communautés très différentes les unes des autres. Il y en a qui sont plus bienveillantes, moins bienveillantes. Il y a aussi des streamers ou des streameuses qui ont des réputations et parfois à l'image de leur communauté. Mais en même temps, je dis ça, mais c'est pas plus objectivé que ça. Donc, mais en tout cas, je peux comprendre l'idée et je comprends. Du coup, c'est intéressant que. L'ambiance perçue, réelle ou supposée des plateformes peut être un frein à l'activité des femmes sur Internet. Ce qui, encore une fois, pour un mec, et tu l'as dit, n'est, je ne crois pas, le cas. Je ne crois pas.
C'est moins un sujet, je pense.
Mais ouais, je me suis
jamais
posé la question.
Mais après, tu vois, pour revenir aux algorithmes, c'est très clair que les algorithmes vont inciter à des choses sexy, par exemple, pour les femmes, si tu poses des choses. Tu vois, il y a plus de likes et de. Donc, on accuse beaucoup les algorithmes de ça. Alors, moi, souvent, je me fais un peu l'avocat du diable. Je dis, OK, mais en fait, un algorithme, il va pousser ce qui est liké.
Il est bête et méchant.
Donc, en fait, si les jeunes hommes likent ces photos dénudées, bah, l'algorithme se dit, ah, bah, c'est intéressant. Donc, je vais pousser ce contenu. Et on rentre dans, finalement, l'algorithme est le reflet de notre société. Donc, maintenant, est-ce que les plateformes, parce qu'il y a ce discours de, en fait, c'est un algorithme qui n'est que le reflet de ce que tu as liké, en fait.
Oui.
Donc, ce n'est pas la faute de l'algorithme. Maintenant, est-ce que on va prendre le parti pris de dire, eh ben, ok, c'est un algorithme, on peut intervenir et dire, ok, on veut que les règles de l'algorithme, elles changent et qu'ils n'entendent plus ces signaux-là. C'est pour l'instant pas le parti pris des plateformes, mais il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça en disant, ok, c'est l'algorithme, mais on peut le changer. Et l'algorithme de Tinder dont tu parlais tout à l'heure, qui était très discriminant, ils ont a priori décidé de le changer. Donc,
c'est une question de choix.
L'algorithme, c'est abstrait au final. Je pense que c'est est-ce que les humains derrière cet algorithme veulent décider de lui donner un autre ordre, de pas refléter nos choix sociétaux.
Oui, on parlait aussi dans la première partie du rôle de l'entourage, puisqu'il y a une grande, il y a quasiment 50% des étudiantes dans le numérique qui ont à la base été découragées par leur entourage de suivre cette voie, ce qui est malheureux. Et en fait, toi, Louise, du coup, il y a des gens qui t'ont, pour ton bien probablement, découragé d'essayer une plateforme en plein essor qui est Twitch et qui pourrait t'apporter une communauté différente qui n'est pas sur YouTube, sous prétexte de, bah, comme t'es une femme spécifiquement, ce qui est vrai, tu vas être exposée potentiellement à des violences systémiques, en tout cas à des violences liées à ton genre, ce qui est vrai, mais si on raisonne comme ça et qu'on décourage toutes les femmes qui veulent se lancer sur Twitch, quand est-ce qu'on aura une présence féminine sur Twitch, quoi ?
Bah, peut-être quand la plateforme décidera aussi de modérer ou, tu vois, je sais pas, il y a des campagnes de communication, d'information sur des trucs assez basiques comme la femme est un être humain, respectons-la. Tu vois, mais en fait, c'est un peu difficile de dire aux femmes, en fait, vous allez vous faire déchirer, mais allez-y parce que sinon, il n'y a rien qui va bouger, tu vois.
C'est ça,
bien sûr.
C'est que je peux attendre, tu l'as déjà fait deux fois, en fait.
Tu l'as déjà fait, c'est ça,
C'est bon. Il n'y a pas de sacrifier
pour la cause, non plus, tu vois.
Pour parler de Twitch, qui est la plateforme que je connais le mieux, l'entreprise Twitch a effectivement un discours et met en place des dispositifs très inclusifs autour de la diversité, autour des LGBTQIA+, et autour des femmes. Et pour autant, ils continuent à avoir cette réputation-là, ce qui montre bien qu'il y a des limites par-delà les discours. Et c'est déjà pas mal hein, d'avoir le discours
pas mal, ouais.
Pour une
boîte
de la tech de San Francisco. Ouais. Voilà, est-ce que la volonté suffit? On se souvient par exemple d'Amine et Billy, qui sont deux streamers célèbres, qui ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps eux-mêmes en créant leur propre système de modération.
Et ça
fonctionne?
De créer un outil qui n'existe pas encore.
En tout cas, ça a fait parler, c'est très récent. Hein. Il a été lancé il y a un mois, un truc comme ça. J'en ai pas réentendu parler depuis. Mais voilà, c'est un système de modération où quand t'es banni sur une chaîne, t'es banni sur toutes les autres. Okay. En tout cas, membre de la plateforme. Donc, intéressant comme dispositif.
Ouais. T'as ça aussi la question... À la base, ça vient de cette prise de conscience de... On a un vécu différent de celui des femmes. Parce que ce que Billy racontait, c'est qu'il s'est rendu compte que lui, il a des gens qui sont super cool avec lui sur son chat et qui vont être hyper misogynes sur le chat.
Et qui se comportent comme des connards ailleurs.
Ouais. Et lui, il le sait pas parce que quand c'est avec lui, les gens, ils sont sympas. Quoi. Et donc ça permet à une créatrice sur Twitch de dire « ce mec-là a été misogyne sur mon chat ». Et du coup, Billy peut décider de le bannir aussi de sa communauté en disant « en fait, si t'as cette attitude, t'es pas bienvenue chez moi ». Même si tu le fais pas chez moi.
Ce qui est une manière intéressante de solidarité envers les femmes, parce qu'on se pose souvent, nous, les hommes, la question de « et nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les hommes
?»
C'est du coup un truc intéressant. Il y a aussi un truc qui est intéressant et qui est un peu pervers, c'est que les plateformes nous mettent entre les mains du créateur la modération. Moi, c'est ma chaîne, c'est moi qui décide des critères de modération sur mon propre chat. Il y a des critères de modération sur Twitch, donc qui fait que je ne peux pas faire n'importe quoi sur mon live, mais moi, je suis responsable du format 16/9. Sur mon chat, c'est moi qui décide. À l'exception peut-être de quelques banwords absolus, je suppose.
Oui, je pense qu'au niveau légal, voilà, il y a quelques mots de base, on peut dire nulle part. Et encore, comme on disait, les utilisateurs vont toujours détourner les règles, donc on va les écrire différemment, etc. Ouais. Enfin, et là, ça va être... au créateur de la chaîne et à son équipe de modération de décider à ce qu'on laisse passer, comment est-ce qu'on modère.
Et moi, je sais que j'ai la réputation d'avoir une des modérations les plus strictes.
On ne peut plus rien dire, finalement, sur ta chaîne.
Mais c'est terrible, c'est d'une intolérance envers le racisme.
C'était mieux avant.
Ça aussi, je trouve ça un peu pervers, l'idée de dire « Ah, mais la modération va vous donner des outils, mais il y a un côté, c'est à vous de la faire, c'est à vous de la décider. »
Je trouve aussi... les outils qui existent. Ok, super, en fait, c'est vrai que moi, j'ai vachement envie d'aller modérer moi-même les commentaires me traitant de tous les noms, tu vois. J'attendais
que ça, envie de les lire, en fait.
C'est un peu se déresponsabiliser.
Mais ça, c'est un vrai point, comme les femmes, elles vont subir plus ça. Elles vont devoir embaucher un community manager, ce qui est donc un coût dans leur structure financière en tant qu'entrepreneuse, parce qu'en fait, aujourd'hui, les créatrices de contenu, elles sont chefs d'entreprise. Ça, c'est un vrai poids, c'est-à-dire qu'elle, elle a un salaire, une rémunération qu'un créateur ne va pas nécessairement avoir. Donc, ça a un impact direct sur ta rentabilité, en fait.
Ouais. Est-ce que dans ton accompagnement des créatrices, tu as des conseils et des outils spécifiques justement pour ces problèmes de modération de propos qui peuvent être plus durs parce
j'essaie de pas l'approcher comme ça, c'est-à-dire que justement comme je veux que tout le monde soit égaux et de dire ok on transmet le même savoir, elles ont les mêmes outils, mais effectivement on a plus de vigilance sur ça, on a effectivement plus de recommandations sur le community management et sur l'accompagnement sur la confiance en soi, sur parler d'argent, son rapport à l'argent. Bien sûr, on va un peu insister là-dessus, mais sans que ça soit... C'est pas parce que t'es une femme que tu vas en avoir besoin. Je pars pas du principe que tu vas en avoir besoin.
Comme on l'a dit, pour la gestion des commentaires, c'est un problème que rencontrent les personnes qui s'exposent sur Internet, de base. Après, ça va être le contenu des commentaires et l'intensité qui peut varier.
Parce que j'ai pas non plus que ça devienne un frein pour les femmes, en disant, elles ont grave parlé sur le fait qu'elles se faisaient attaquer, donc j'y vais encore moins, tu vois. Il ne faut pas non plus parler que de ça, parce qu'il y a plein d'autres choses très chouettes et il faut y aller, même si ça peut parfois un peu secouer. Mais la plupart du temps, ça se passe extrêmement bien parce que les communautés sont très chouettes, on va quand même le dire.
Oui, en vrai, c'est toujours pareil. 90% des gens sont très, très cool, veulent que ça se passe bien et sont même capables de s'autogérer, de s'automodérer. Comme là, sur le chat, il y a des débats, il y a des gens qui disent « attention, ce mot-là, on ne préfère pas l'utiliser ». Il y a aussi, on peut être acteur et actrice de la communauté à laquelle j'appartiens est saine et n'est pas toxique parce que il n'y a pas qu'à la modération de faire le travail ou à des outils techniques des plateformes. Il y a aussi soi-même, en tant que personne humaine sur Internet, on peut encourager ou décourager certains comportements en disant « moi, je ne suis pas d'accord avec ça ». Est-ce que toi, Louise, tu es au contact de... Alors, donc toi, Nawel, tu bosses surtout avec des créatrices déjà un petit peu installées pour les aider à se développer et à s'installer de façon pérenne.
C'est ça.
Est-ce que toi, Louise, tu rencontres peut-être plutôt des femmes et des filles qui envisagent de se lancer, qui sont à peut-être une étape plus tôt de... Peut-être que je pourrais exister sur Internet. Comment elles perçoivent le fait de... Ok, peut-être moi aussi je peux le faire.
Écoute, c'est marrant, je me fais plus contacter par des personnes qui veulent lancer leur boîte, et notamment leur marque de vêtements, parce que j'ai une marque de vêtements qui s'appelle je ne sais quoi, plus que des conseils pour se lancer sur Internet. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il y a encore plus d'opacité sur le monde de l'entrepreneuriat, qui est lui aussi, surprise, très masculin, finalement.
Les trucs qui rapportent de l'argent, donc.
5% de CEO sont des femmes, 2% des investissements dans des startups sont destinés aux femmes. Okay. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a encore plus besoin, je dirais même, de rôle modèle dans cet univers-là. Mais après, en fait, je ne sais même pas si on peut donner des conseils pour la création de contenu, parce que, du coup, les obstacles auxquels on peut faire face sont tellement indépendants de notre volonté que je n'aurais pas de bonnes pratiques à partager, parce que j'ai pas envie qu'elles se censurent, comme tu disais.
Ouais.
Donc je vais pas, moi, je n'aurais pas conseillé à quelqu'un de pas aller sur une plateforme justement parce que c'est misogyne. Mmh. Je l'aurais peut-être mise en garde, mais en vrai, toutes les plateformes le sont. Donc c'est assez difficile, je trouve, de conseiller des jeunes femmes à part leur dire ce n'est pas personnel, ce n'est pas contre toi. Je sais que c'est difficile à réaliser quand ça te concerne directement, mais les critiques qui nous sont adressées en disent plus long sur la personne qui les émet que sur nous-mêmes. Donc voilà, je pense que c'est, entre guillemets, peut-être blinder les femmes, ce que les hommes ont beaucoup plus naturellement, du fait de la virilité. Parfois, d'ailleurs, ça les touche aussi, mais ils le montrent moins, parce que masculinité toxique. Mais le fait est que la plupart ont quand même cette confiance. Moi, c'est quand même marrant. Donc il s'avère que mon copain est sur les réseaux. Et il est arrivé après moi, donc enfin voilà, il a lancé d'ailleurs dans les livres aussi. Mmh. Et la première fois qu'il a eu des haters, il m'a dit oh trop cool, j'ai mes premiers haters.
Ça y est, j'ai percé.
Ouais. Tu vois, mais pas du tout la même vision des choses que moi.
Ouais.
Moi, quand j'avais mes premiers haters, j'avais envie de les appeler, de discuter, de leur expliquer qu'en fait j'étais quelqu'un de bien. Tu vois.
Oh, t'es si pur.
Je ne comprenais pas en fait. Alors que lui, il était vraiment, il était content, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment un truc.
Ouais. Il y a peut-être aussi moins peur de l'escalade, tu vois, de bon, bah, c'est des haters, il y en a partout sur Internet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là où tu peux dire, oh là, attends, parce qu'après, s'ils continuent à s'énerver et tout. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, c'est important de rappeler que la vie d'une femme qui crée sur Internet ou d'une femme qui travaille dans la tech en général, c'est pas que du harcèlement, des discriminations et des problématiques genrées, c'est aussi
la liberté de continuer.
Moi, je me suis jamais dit, je vais arrêter. Enfin non, déjà ce serait un désaveu. Et puis non, c'est vrai qu'on est là pour faire passer un message. Donc en fait, c'est ça qui compte plus que le reste.
Moi, il faudrait pas qu'on tombe dans la facilité de ne faire que de l'empowerment en disant aider les femmes à se lancer, etc. Il y a aussi un environnement. Et je m'interroge du coup sur ce que les plateformes en fait devraient mettre en place pour faciliter la création de contenu par les femmes. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec les règles de modération, ça fait partie des enjeux. Est-ce qu'il faut que les plateformes soient proactives? Est-ce qu'il faut qu'elles protègent? Est-ce qu'il faut qu'elles accompagnent? C'est quoi le juste milieu entre débrouillez-vous, on vous donne 3 outils de modération et ben voilà.
Ouais.
Et on fait tout à votre place.
Je pense peut-être que l'algorithme est un vrai truc aussi. Peut-être que tu vois sur Twitch, ils pourraient décider de mettre plus en avant certaines femmes dans les recommandations. Peut-être que sur l'algorithme, on pourra avoir une discrimination qui serait positive. Je ne suis pas sûre que tout le monde serait d'accord avec ce discours. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure. Mais parfois, la discrimination positive sert à rééquilibrer les choses. Tu vois, ça peut être un levier.
Oui, à créer des habitudes aussi. Je pense que si tu es habitué, quand tu cherches un live jeu vidéo ou une vidéo YouTube,
pour, connaître, en fait.
Voilà, sur le remaster de The Witcher 3. Si l'algo dit, OK, bon, à la base, il y a 70% d'hommes, mais on va faire en sorte de proposer 50% de femmes et 50% d'hommes, parce qu'il y en a des vidéos de femmes, il y en a juste moins, mais il y en a. Si petit à petit, les gens s'habituent, ou même à proposer un peu plus de femmes pour lutter contre le biais qui fait qu'on va cliquer d'abord sur un homme, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus besoin que cet algorithme soit.
Et on en revient à la discussion d'avant sur les choix qui doivent être faits. Non, il n'y a rien de neutre et ça peut être aussi un choix. Et c'est un truc qu'on peut demander aux plateformes de faire le choix, de pousser, de mettre en avant, de forcer les rôles modèles, etc.
Et peut-être aussi que si les créateurs, et là je dis vraiment les créateurs, faisaient plus de collabs avec des filles, même si elles n'ont pas le même nombre d'abonnés, parce qu'ils font quand même beaucoup de collabs qu'entre eux, c'est-à-dire le nombre de fois.
Oui.
Enfin, moi je dis souvent quand les garçons disent qu'est-ce qu'on peut faire, pose-toi la question à chaque fois que tu as une table, combien vous êtes d'hommes et combien vous êtes de femmes. Quand tu es au travail, quand tu es en réunion, et quand tu es à un moment tu formes une équipe, quand tu diriges une équipe et qu'à un moment tu dis tiens j'ai que 5 garçons, parce que je pense que c'est pour le bien de tous d'avoir le regard de tout le monde. Et donc peut-être que aussi les créateurs, quand ils créer un format où ils sont 4, ils pourraient se dire, tiens, on n'est que 4 garçons. La prochaine fois, on trouvera une fille, on essaiera de ne pas prendre tout le temps la même aussi.
Et est-ce qu'à l'inverse, alors il y a un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est la sororité. Mmh. On sait que les femmes peuvent aussi parfois être encouragées à se tirer dans les pattes et à se mettre en rivalité. Ouais. Dans cette idée de toute façon, on est en minorité, on est en concurrence, il ne peut y en avoir qu'une qui va du coup devoir dépasser, voire bouffer les autres. Mais on peut aussi voir le fait de collaborer avec des femmes comme une façon de se tirer vers le haut et d'améliorer en collectif la place des femmes sur Internet. Donc toi, Nawel, tu as l'accélérateur Better qui s'adresse que à des créatrices. Ouais. Et toi, Louise, est-ce que t'es entourée de femmes aussi dans ton milieu pro, mais aussi perso, qui participent à rendre ta légitimité sur Internet plus évidente?
J'ai fondé un club qui s'appelle Girls in Biz, justement parce que j'en recevais beaucoup de messages de ma communauté qui me demandaient, enfin qui me disaient, voilà, j'ai des projets, mais je ne sais pas forcément comment les mettre en œuvre, j'ai pas assez confiance en moi, et en fait, du coup, bah, c'est difficile de répondre à tout le monde individuellement. Donc je me suis dit, bah, je vais organiser des événements une fois par mois, avec ma communauté, avec justement des rôles modèles féminines et que ce soit exclusivement féminin, parce que tu vois, c'est pas tant, on pourrait dire c'est misandre. En fait, c'est pas tant que je veux exclure les hommes, mais c'est que force est de constater, tu mets 20 femmes dans une pièce et un homme, elles s'exprimeront pas de la même façon que 100 hommes. En fait, il y a une espèce de... En fait, vu qu'on a quand même historiquement été élevé pour satisfaire l'homme, pour être choisi par l'homme, en fait, il y a vachement ce changement d'attitude à partir du moment où tu mets un homme dans la pièce.
Et de légitimité aussi. On parlait dans la première partie
du fait que
sur une offre de poste, on va demander 10 compétences. Un homme qui n'a pas forcément les 10 va être plus prompt à se dire bah, « c'est pas grave, je postule et puis j'apprendrai, je bluffe un peu et j'apprendrai sur le tas » qu'une femme qui peut-être en a 12 sur 10 et qui va dire « mais je sais pas, peut-être
mais ça, je le dis souvent, je dis... un créateur, il va lire un livre, il va faire une vidéo, et une créatrice a besoin d'avoir un doctorat pour peut-être envisager de faire une vidéo. Yes. C'est un gros cliché mais c'est vrai. Donc je l'ai vu dans le quotidien. Je le répète souvent aux filles quand elles hésitent sur des sujets. On a parlé de Syllabus tout à l'heure, qui se trouve que je représente, et elle a été citée et sur sa vidéo sur l'écriture inclusive. On en a beaucoup parlé avant qu'elle ose le faire, et je la trouve incroyable cette vidéo. Donc
génial, ouais.
Il a fallu aussi un peu la.
Il y a des gens qui faisaient remarquer, on parlait donc de mettre en avant dans les algorithmes de recommandation des contenus créés par des femmes, il y en a qui disaient oui, pourquoi pas un onglet où il y aurait que les femmes. Alors ça, c'est un vieux débat qui existe sur créer des annuaires de créatrices, etc.
Ouais.
Ça, bon, c'est à double tranchant.
Il faut l'écouter au milieu de vachement, dans les tendances YouTube, on pourrait se dire il y a toujours 50% femmes et 50% d'hommes. Tu peux décider, toi, que ton algorithme dans tes tendances YouTube, il y ait 50-50.
Après, ça peut être un outil comme un autre. Moi, sur ma chaîne Twitch, j'ai le tag femme dans mes lives. Et tu peux voir par quel tag les gens viennent sur tes lives. Et alors, le premier, c'est français sur ma chaîne, parce que ça indique que c'est un Twitch francophone, ce qui est quand même le critère de base pour comprendre. Et le deuxième, c'est femme, parce que je pense qu'il y a des gens qui, pour des raisons variées, mais que j'espère positives et respectueuses, c'est des femmes qui ont envie de regarder des femmes, soit c'est des hommes qui ont envie de regarder. Et qui, du coup, ça peut aussi être un critère positif, mais je ne suis pas forcément pour un répertoire 100% femme.
Ouais,
après, je sais que dans les médias, il y a une initiative qui est le guide des expertes, et c'est experte avec un ES, qui a été créé par des femmes journalistes pour pallier le fait que justement dans les médias, quand on invite un expert, généralement on invite un expert, et c'est un annuaire où en fait les femmes sont amenées à s'inscrire en disant voilà, je suis experte de tel domaine, j'ai un doctorat dans tel domaine, et comme ça en tant que journaliste on n'a pas d'excuse pour inviter toujours un homme pour parler, parce qu'il y a des femmes
qui sont expertes. Oui, mais j'en connais pas moi des expertes femmes dans le domaine de bah tiens regarde, hop là, j'ai quand
même. Et c'est souvent aussi l'excuse mais légitime qui est pas malhonnête des créateurs de contenu qui en plus souvent parfois doivent bosser avec des délais courts. Bah vas-y, j'appelle mon top 5 des gens que je connais bien, avec qui je peux bosser, qui sont là.
En fait, c'est comme toutes les discriminations, c'est-à-dire ça demande un effort. Tu vois, c'est comme le mouvement Black Lives Matter, tu vois, c'est, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont réalisé qu'en fait, il n'y avait peut-être pas assez de diversité sur leur chaîne. Enfin, moi, j'ai réalisé ça avec mon podcast, tu vois. Et en fait, c'est, bah oui, mais en fait, même si j'en connais pas, bah oui, ça demande un effort supplémentaire de recherche. So what, tu vois, c'est trop facile, en fait, si aussi on se cache uniquement derrière cette excuse.
Et parce que là, on parle de plus de créatrices, mais on n'est pas en pré-rentrée dans quelle créatrice, parce que il y a quand même aujourd'hui plus de créatrices blanches. Donc, il y a encore un second combat qui sera en plus d'avoir une diversité dans ces profils-là où il y a encore...
Les deux peuvent aller mener de front. Ça ne veut pas dire qu'on va d'abord faire 50-50 pour les femmes majoritairement blanches, et ensuite on pourra amener la diversité des femmes.
Oui, c'est on peut faire les deux.
Inviter des gens variés, tout comme quand vous invitez des hommes, invitez pas que des hommes blancs, cisgenres, hétéro, valides, qui déjà installé sur les plateformes, bah, quand vous invitez des femmes, invitez aussi une pluralité de femmes, parce que c'est ça qui va donner, en plus, une pluralité de regards, d'opinions. Enfin, là, on est trois femmes et un homme, et je pense pas que c'est moins intéressant que si on était une brochette de quatre mecs, quoi.
Et ça, pour le coup, les algorithmes jouent un rôle énorme dans la diversité, ou plutôt le manque de diversité, mais après, c'est le phénomène de bulle de filtre. Moi, je l'ai réalisé quand j'ai rencontré Sally, voilà, de la chaîne Sally sur tous les réseaux. Et en fait, on a commencé à se dire « Ah, mais tu connais machin. » Et en fait, c'était vraiment surprenant. C'est-à-dire que je ne connaissais aucune créatrice qu'elle me citait.
Ouais.
Et elle était choquée.
Ouais.
Et moi, j'étais des grosses créatrices de contenu, tu vois, blanches. Elle ne les connaissait pas.
Oui, et parce que chacun va regarder son monde, sa bulle.
Ouais, il y a un monde. Et en fait, là aussi, ça demande un effort de notre part d'aller, du coup, rencontrer l'autre. Mm. Mais je pense que les plateformes ont aussi un rôle à jouer.
Je suis d'accord.
S'ils nous montrent toujours les mêmes, en fait, c'est hyper segmenté, quoi. C'est hyper communautaire.
On a parlé des plateformes, de ce qu'elles mettent en place, on a parlé des créatrices elles-mêmes, de leur accompagnement, on n'a pas parlé de l'État, de la puissance publique, et il y a des légalistes dans le chat, évidemment, qui sont dit, ouais, et
des légalistes sur ta chaîne, genre,
ouais, y en a deux, trois, il y a des marxistes, ouais, qui étaient en mode, bah, et les pouvoirs publics dans tout ça n'ont-ils pas un rôle? Et c'est vrai qu'il y a aussi le risque qu'on rentre dans le schéma de les GAFAM tout-puissants, et en fait, les États n'existent plus, on se bat avec des algorithmes et des costards cravates à San Francisco. Non, il y a aussi, effectivement, les pouvoirs publics, c'est un sujet intéressant, ils sont toujours à la ramasse, toujours en retard, mais ça commence à arriver. J'en veux pour preuve, par exemple, le ministre du Numérique qui a reçu à l'automne dernier des créatrices de contenu qui avaient été victimes de cyberharcèlement. Il a également reçu les plateformes. Il semblerait, d'après ce que j'ai compris, que la réunion a fait prendre conscience au ministre qu'il allait falloir sérieusement accélérer sur le sujet et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, du point de vue de la loi, il y a des choses qui vont être amenées à évoluer. Il y a la loi contre la haine en ligne qui avait été votée. Il y a la lutte contre le cyberharcèlement qui fait partie des priorités affichées par le gouvernement. Il y a les réglementations européennes sur les services numériques qui sont en train d'entrer en vigueur et qui vont dans le sens de la transparence des algorithmes. Voilà, ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait en début d'émission. Donc, on est sur une prise de conscience tardive et une mise en mouvement, elle aussi tardive et pour l'instant pas très ambitieuse, mais ça peut changer des pouvoirs publics. Donc là aussi, de ce point de vue-là, il y a quelque chose à faire. Il y a des députés qui commencent à saisir du sujet, il y a des rapports qui ont été rendus.
Bien sûr, il y a des propositions de loi aussi.
Oui, il y a des propositions.
Le secteur de l'influence.
Alors oui, on pense aux influx voleurs, etc. Donc on commence à oui, mais de
juste,
plus en plus.
En fait, le statut juridique d'influenceur, influenceuse et d'agent d'influenceur n'existe pas.
N'existe pas, non.
Il y a une consultation publique qui est toujours en cours jusqu'au 31 janvier
publique.
Sur la question notamment de comment définir légalement le profil d'influenceur créateur de contenu, ils disent les deux, le pouvoir de son agent aussi, le statut légal de son agent, quel produit il peut promouvoir. Donc voilà, vous pouvez y participer, c'est ouvert à tout le monde, je vous mets le lien dans le chat.
Pour l'instant, l'État intervient uniquement en bout de chaîne. Et c'est malheureusement trop souvent le cas. C'est le cas dans les violences faites aux femmes aussi.
Oui, c'est ça.
Mais je sais que j'avais discuté de ça avec Lola Dubini, qui, elle, a poursuivi en justice deux internautes qui l'avaient ouvertement critiqué, mais c'est de l'incitation à la haine sur Twitter, qui a obtenu gain de cause, et donc ils ont payé une amende. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est génial, il y a peu de gens qui vont au bout de la procédure, parce que c'est dur comme process. C'est bien, du coup, l'État intervient quand même pour punir, mais est-ce qu'il ne pourrait pas intervenir en amont pour ne pas uniquement, sauver les meubles.
Et élever les garçons autrement, par exemple.
N'est-ce pas? Mais est-ce que ça, c'est à l'État?
Il y a une part de l'éducation nationale, la société, les médias,
mais même des campagnes de communication publique nationale.
N'est-ce
alors, je l'ai appris en préparant ce live, donc je le mentionne parce que Orange est partenaire de l'asso e-enfance qui encourage le dialogue spécifiquement chez les jeunes ont des problèmes liés à leur vie en ligne, quoi, à des problèmes d'insultes, de harcèlement, de se sentir bien dans le numérique.
Oui, c'est ça, parce que
il y a un numéro et une appli, le 3018, qui permet, du coup, parce que c'est aussi
pour les mineurs, donc.
Ouais, pour interagir avec des spécialistes d'associations, pour parler de leur vie en ligne et des problèmes qu'ils et elles peuvent rencontrer, ce qui est le genre d'initiative qui peut, donc il y a agir en amont autant que possible et puis donner des outils pour accompagner tous les publics sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur Internet.
Tous les publics, au final, là, on sort même du spectre créateur-créatrice, quoi. C'est vraiment, aujourd'hui, tout le monde peut malheureusement subir la haine en ligne et c'est là où, à mon avis, l'État doit plus, en fait, rencontrer les plateformes. Je pense qu'il y a trop aujourd'hui une barrière entre le privé et le public. Et pour moi, ils ont un devoir de protection envers leurs citoyens, quoi. Donc il faut, à mon avis,
ouvrir les yeux sur le fait qu'aujourd'hui, c'est un réel danger et qu'il faut le réguler.
Okay. Et puis si on veut plus de créatrices qui parlent d'astronomie ou de physique, il faut que les petites filles qui sont aujourd'hui à l'école aient envie de devenir physicienne ou astronaute. Donc ça part aussi de ça, de plus de représentation dans tous les métiers.
Oui, en soi, plus l'État lutte contre les inégalités en général, ouais. plus on aura de l'égalité dans tous les secteurs, ouais. et donc sur Internet, et aussi...
Bien sûr.
Je pense qu'il y a une forme de violence qui touche les femmes encore plus, comme on l'a dit, quand elles ne sont pas dans des domaines où on imagine les femmes légitimes. Mmh. Voilà, une femme qui parle de science va être plus attendue au tournant qu'une ouais. femme qui parle de beauté, peut-être. Plus il y aura des femmes en science, plus ce sera ancré Exactement. Dans l'esprit des gens qu'il n'y a pas de raison qu'une femme ne soit pas légitime pour parler de science. Mmh. Donc cette action, elle peut se faire à tous les niveaux, mais sur la question de la législation, c'est toujours compliqué. Où commence la censure ? Où commence l'ingérence du public dans le privé ? Ouais. C'est beaucoup d'entreprises qui ne sont pas françaises, je veux dire, Twitch, oui, c'est pas Coco.
Là aussi, attention, on en parlait tout à l'heure, et ça fait le lien avec ce qu'on disait sur il y a des différences culturelles en matière oui. d'éthique, il y a aussi des différences culturelles en matière d'intervention du secteur public.
Ouais. Ouais.
Nos amis américains, qu'on embrasse, ont effectivement une logique très libérale, vie privée, les sociétés sont libres de définir ce qu'elles veulent en interne.
Ouais, en même
nous,
même
sur le vieux continent, nous les Européens, on a...
Je pense à YouTube avec les gros mots qui pas du tout passé sur la France.
On aime tellement être vulgaire en même temps.
Donc c'est, alors, c'est, y a aussi, des fois, il y a aussi des contradictions.
Il y a des contradictions intéressantes.
Les plus gros producteurs de films pornographiques. Donc.
Vous avez tous vu Elon Musk avec ses délires sur la liberté d'expression, etc. Vous avez vu les engueulades qu'il a eues avec Thierry Breton, le commissaire européen, qui lui a donné une version européenne de la liberté d'expression, en disant en fait, nous ici, il y a des tribunaux, il y a des lois.
C'est pas
open bar. Et donc du coup, là aussi, c'est... On est quand même dans un Internet très américain, qui a une philosophie très américaine.
Ouais.
C'est aussi un combat qui est en train de commencer à mener l'Europe autour d'un Internet qui commence à répondre aussi à des valeurs plus européennes de protection des droits, de lutte contre la discrimination et d'intervention de la puissance publique. Donc il y a un combat intéressant, qui est en train de se mettre en place, et peut-être que la question de la représentation des femmes sur Internet va faire partie de ce paquet sur lequel il faut sans doute se battre. Enfin, moi, en tout cas, je le souhaite, mais... C'est mon avis et on peut en discuter.
Et après, sur le chat, ça pose aussi des problématiques de liberté individuelle. Par exemple, est-ce que lever l'anonymat, tu parlais de la possibilité d'aller en justice contre des gens qui nous harcèlent sur Internet. Généralement, le problème principal, c'est on va retrouver Tutur28 chez lui, on va sûrement trouver oui. Mais en fait, si la plateforme ne donne pas accès aux données, à l'adresse IP, etc., on va pouvoir le chercher longtemps. Ouais, mais est-ce que pour autant, lever l'anonymat totalement sur Internet, avec toutes les dérives que ça peut engendrer de protection
sur
de la vie
liberté d'expression aussi.
C'est pas forcément.
Mais la liberté d'expression n'est pas égale anonymat.
Non,
tu peux dire ce que tu veux, mais en ton nom.
Non, mais
et à mon avis, les gens réfléchiraient à deux fois avant de s'exprimer si c'était en leur nom, tu vois.
C'est pas l'anonymat, c'est du pseudonymat. Et en l'occurrence, non, mais c'est vrai, t'as raison. Et faire pression sur les plateformes, ça les force aussi à coopérer avec la justice. Lorsque la justice, lorsque des enquêteurs, des magistrats demandent à une plateforme qui se cache, enfin, quelle est l'adresse IP derrière ce compte, etc., il faut effectivement que les plateformes obéissent aux magistrats, avec les risques qu'il y a derrière aussi. Hein. Il y a des utilisations de la justice dans des pays d'extrême droite, en Hongrie, etc., où on chasse des militants des droits de l'homme et des droits des femmes aussi comme ça. Donc il faut faire attention, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas persuadé que la question de... interdire l'anonymat, interdire l'utilisation de pseudonymes sur Internet soit une solution.
Je ne sais pas si interdire serait le bon mot, mais en tout cas, déjà, ne serait-ce que pouvoir avoir accès à l'adresse IP de tout un chacun, ça me semble normal, en fait. Ça me semble normal, parce que, mine de rien, aujourd'hui, le pseudonymat, en fait, quel est l'aspect positif ? Dire ce qu'on veut, mais pourquoi tu ne peux pas le faire ?
Les lanceurs d'alerte,
il y a plein de gens dans des domaines où ils ne peuvent pas.
Oui, c'est vrai. Protéger,
ils n'ont pas la liberté d'expression.
Pour les lanceurs d'alerte, je suis d'accord, c'est nécessaire. Et du coup, est-ce que les lanceurs d'alerte agissent vraiment sous un... Oui, c'est vrai, ils agissent sous un pseudonyme.
Les personnes syndiquées, les gens qui critiquent leur entreprise sur Internet, leurs conditions de
travail. Mais ils ont le droit, ça, c'est la liberté d'expression.
Mais ils peuvent perdre leur emploi.
Le but, c'est que l'adresse IP, pour moi, c'est un dernier recours. Tu vois, c'est si jamais il y a eu vraiment une incitation à la haine, si jamais il y a eu quelque chose qui est passible.
Pour les magistrats.
Pour la justice, doit trancher, là, ça vaut le coup. Pour moi, là, ça vaut le cas. Actuellement, encore faut-il que la plateforme qui n'est pas basée en France. Par exemple, Twitter est basé, je crois, en Irlande pour l'Europe, pour des raisons fiscales principalement. Il faut qu'elle soit OK pour donner les IP. Et en fait, Twitter, c'est arrivé que juste Twitter te laisse en vue, quoi. Twitter laisse en vue la justice française.
Ça, c'est fou.
De non-flemme, c'est pas assez important, en visant sur... ils vont se lasser. Et comme en plus, la justice a des très longs délais en France, donc on sait, voilà, on va porter plainte. Si la plainte est ok, il y a une instruction, ça va prendre déjà 10 ans. Si Twitter met 5 ans à répondre à chaque demande, ça devient une usine à gaz et à la fin, on va faire passer en procès quelqu'un qui t'a insulté sur Internet il y a 20 ans en s'appelant Tutur 28. Quoi. Désolé aux tutures.
Mais vraiment tutures, t'en prends plein la gueule aujourd'hui.
Position, ils ont démonétisé certains créateurs qui ont eu... Donc voilà, il y a des plateformes qui...
Sur la chaîne de la démonétisation, là aussi, il y a des...
Il y a des vrais sujets, hein, c'est un vrai...
Il y a des vrais sujets, et voilà, on parlait de la pudibonderie américaine, etc. On se souvient des femmes qui parlaient sur YouTube des menstruations... qui se faisait démonétiser.
Voire interdire au moins de 18 ans.
Voire interdire au moins de 18 ans, tu te dis, tiens, c'est intéressant. Là,
comme moi, ma vidéo sur MeToo, elle est démonétisée.
Ah, yes.
Beaucoup c'est, de vidéos. C'est marrant quand même. En fait, c'est marrant quand tu sais que d'autres vidéos... parce qu'en plus, je ne sais même pas ce qui dérange. Bah, en fait, si, c'est plutôt les annonceurs, en fait, je pense. C'est toujours le problème des annonceurs et de l'argent que peuvent générer certaines vidéos. Parce qu'on ne montrait pas de corps, on n'employait pas, tu vois, de termes... fondamentalement problématique. Non, moi j'avoue, je cherche pas.
Ils sont capables de te répondre généralement.
C'est pas grave.
Bah, en plus, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils disent ah oui, en effet, on remet la monétisation, mais comme sur YouTube, c'est les premières heures d'une vidéo qui vont être très importantes pour son succès et donc pour sa place dans l'algorithme. Alors, selon si YouTube, mais une journée à te réinstaller ta vidéo, bah, t'as perdu l'énergie du lancement et du coup, on en arrive aussi à. Pourquoi les créatrices parfois gagnent moins d'argent?
On va arriver vers la fin de notre échange. Je veux pas qu'il y ait de regrets. Je veux pas que vous sortiez frustré en disant c'est con qu'on n'ait pas parlé de ça ou c'est j'aurais voulu dire ça. Réfléchissez à ce que vous avez envie de dire. Si vous voulez résumer aussi ce qu'on a dit, n'hésitez pas. Vous dans le chat, vous êtes toujours avec nous. Je vois que vous discutez depuis tout à l'heure. Et évidemment, c'est des sujets d'intérêt public et ça génère du débat et de l'intérêt et tout. Donc tant mieux. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire cette émission.
Et on voit bien de toute façon depuis 2 heures qu'on en parle, qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'il n'y a pas de solution simple, qu'il n'y a pas un organisme spécifique qui doit s'en occuper, que c'est à la fois le problème de tout le monde et la faute de personne spécifiquement. Donc c'est normal qu'on aborde plein de choses et qu'il y ait des débats dans le chat, parce que l'idée, c'est pas de finir ce live en disant, on a la solution au sexisme sur Internet, de rien. J'aimerais bien, mais on n'a pas cette prétention. Par contre, il y a plein de pistes de solutions, il y a plein de pistes d'amélioration, et du coup, c'est important d'en parler.
Justement, puisqu'on parle de pistes, et si on veut essayer d'être pratique, s'il y a des personnes, notamment des femmes, qui nous ont écoutées, qui souhaitent se lancer sur Internet, est-ce qu'on peut reparler ou se lancer ou qui se sont déjà lancés, est-ce que tu peux nous reparler de Better?
Oui, ce que j'allais dire, programme. Je pense que ça fait une très belle transition sur... Parce que je pense qu'on est un peu le bras armé justement d'Orange et de Hello Woman sur ça, c'est-à-dire okay, concrètement comment on va faire avancer les choses. Et donc cet accélérateur, il a pour vocation d'accompagner 10 femmes, 10 créatrices, qui ont déjà lancé les choses, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a oser se lancer, mais il y a réussir à rester. Mmh. J'ai fait un parti pris de dire, OK, on va déjà aider celles qui sont là pour atteindre la puissance des hommes et être sûre que dans 5 ans, elles soient encore là et qu'on les entende et qu'elles grossissent. Donc là, vous pouvez postuler. Les candidatures sont ouvertes à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de février. Donc vous avez un mois et après, ça sera pour passer une semaine d'accélération dans les locaux d'Orange avec des experts et des expertes sur plein de problématiques. Donc c'est 5 jours intensifs la première semaine d'avril et il y a tout sur le site détaillé sur les conditions pour pouvoir participer.
Je vous remets le lien du site dans le chat. Vous le trouverez aussi en commentaire de cette vidéo sur YouTube, en description pardon, de cette vidéo YouTube. Vous inquiétez pas. Louise, qu'est-ce que tu aurais envie de dire soit aux jeunes femmes qui hésitent à se lancer, soit aussi aux jeunes hommes qui veulent être utiles et ou aider?
Écoute, aux jeunes femmes qui veulent se lancer sur Internet, j'aimerais leur dire de vraiment se concentrer sur ce qu'elles ont à dire et pas sur ce que les gens vont dire d'elles, parce que les gens vont dire beaucoup de choses. Et donc ça demande une certaine forme de détermination et de vision pour continuer son cap. Pour les jeunes hommes qui se lancent, y a un argument que j'avais avancé il y a quelques années de ça, mais qui me paraît toujours aussi valable, c'est en fait, demandez-vous toujours si vous diriez ça à votre mère. Ah. Parce qu'en fait, c'est quand même assez fou, hein, le triptyque, je ne vais pas l'énoncer. Mais en tout cas, la distinction qu'il peut y avoir entre les femmes et puis la maman. Oui, c'est une femme comme nous.
Les femmes, mais pas la daronne et pas les sœurs. Ça ne se fait pas.
Et donc, juste du bon sens un peu pour que vous puissiez réaliser que, somme toute, nous sommes les mêmes êtres humains. Et je pense, quand tu nous demandais si on avait un dernier mot, on en a un peu parlé, mais c'est vrai que j'insisterais vraiment, si l'on regarde, sur le rôle de l'éducation nationale, en fait. Pour lutter contre le sexisme tout court, mais notamment par rapport à notre sujet, pour lutter contre le sexisme dans la tech. En fait, ça passe par déconstruire les clichés, ça passe par faire venir des femmes qui travaillent dans ce milieu, ça passe par peut-être étudier des cas de cyberharcèlement pour montrer en quoi, en fait, c'est juste pas normal. Voilà. Sachant qu'ils se font aujourd'hui leur propre éducation sur les réseaux, si jamais il n'y a pas de contre-pouvoir, on ne peut pas s'étonner, en fait, que ça continue à se perpétrer.
OK.
Puisqu'on est dans la continuation des conseils, parlez et écoutez les femmes de votre entourage, y compris votre maman, y compris vos sœurs, vos copines, votre copine, etc., sur leur expérience, notamment du cyberharcèlement, etc. Demandez à votre maman ce qu'elle a déjà vécu dans les transports en commun, dans sa vie quand elle était plus jeune, etc. Très intéressant, ce genre de discussion à avoir.
Oui, et d'autant plus qu'en fait, voilà. Vous n'aurez pas les mêmes réponses. Elles ne seront pas d'accord entre elles, elles n'auront pas les mêmes vécus. Il y a des femmes qui vont dire « je ne me suis jamais fait harceler » et ça va être soit vrai, des fois, soit peut-être qu'elles ne l'ont pas identifié comme ça. Il y en a qui vont dire « ça, c'est un problème majeur », d'autres qui vont dire « mais non, bah, comme on le voit sur le chat, est-ce qu'il faut faire de la discrimination positive ?» Bah, non, il faut plutôt laisser les gens faire ce qu'ils veulent, peu importe leur genre. Et, en fait, les femmes aussi auront des avis différents et c'est normal parce que c'est des personnes. Donc ça ne va que enrichir vos horizons.
Et le syndrome de l'imposteur, il faut en avoir conscience, il faut savoir lutter contre. Voilà, on est tous des fraudes. Ouais. On sait tout. Non, mais on a tous. Voilà, c'est une effraction. Arriver sur Internet et créer un truc, c'est avoir l'outrecuidance de dire j'ai un truc à dire.
Ouais. Et ça va intéresser des gens.
Que ça va intéresser. Voilà, donc faites-le. Enfin, faites-le. Voilà. Si vous hésitez pour cette raison-là, dites-vous qu'on est tous des fraudes à notre échelle. Et donc. N'hésitez pas. Mimi.
Oui.
Est-ce qu'on a oublié des trucs? Est-ce qu'on a des trucs à dire en conclusion?
Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. On peut vous renvoyer vers Hello Women, le programme d'Orange, du coup, qui vise à améliorer l'inclusion des femmes dans la tech, vers l'accélérateur Better, qui est sur le site de Loupine, et vers, bien sûr, toutes les créations de Louise at My Better Self. Et puis, comme on l'a dit, vous encouragez, en fait, Internet, pour moi, c'est une terre de curiosité. Osez sortir de votre zone de confort, osez sortir des sentiers battus, à la fois si vous créez, mais aussi quand vous consommez, quand vous regardez. Allez voir un peu ce que font les femmes, les personnes minorisées en général. Dites-vous, tiens, là-dessus, je regarde toujours les mêmes personnes, bah, je vais tenter. Au pire, vous regarderez une vidéo qui vous passionnera pas et vous passerez à autre chose. Il y a pire dans la vie. Au mieux, vous découvrirez un créateur ou une créatrice à qui vous allez vous abonner et dont vous allez soutenir le travail et qui va... grâce à des programmes comme Better, on espère rester longtemps et vous accompagner et grandir aussi sur Internet avec vous. C'est ça qu'on veut.
Il nous reste à vous remercier d'avoir regardé cette émission en direct sur Twitch ou en replay sur YouTube ou sur les autres réseaux. On remercie Orange qui était donc le sponsor de cette émission avec son programme Hello Woman. Merci à toi Mimi.
Merci Jean, quel plaisir.
C'était trop bien. Merci à toi. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.
Bye bye.
Merci.